Et la pauvre, elle était en larmes. Je vous jure que c'est pas marrant, mais c'est horrible en fait. Mais quand t'es au collège, en fait, t'es horrible. On était amoureux d'une meuf dans la classe, elle s'est faite troncher par un grand métis qui avait redoublé, ok. Je me suis dit que j'allais faire un podcast pour expliquer pourquoi je détestais les profs. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 10 000 pas. Saison 3, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et le plus hors série du game. Aujourd'hui, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve ce dimanche 6 octobre 2024 pour un podcast particulier. J'avais envie aujourd'hui de faire un hors série. Pourquoi ? Parce que il s'est pas passé énormément de choses de mon côté pour la semaine du Raptor. J'ai eu beaucoup de choses à traiter du côté perso et en ce qui concerne les news. J'avais pas envie de vous faire beaucoup de news cette semaine parce que c'est que des news un peu badantes, honnêtement. c'est pas le concept du podcast de faire bader. Et je pense qu'on a bien compris, le topo. Donc de temps en temps, un petit podcast hors série, un petit épisode hors série. Et je me suis gratté la tête sur de quoi je pourrais parler, dont j'ai pas encore parlé, ni dans la saison 1, ni dans la saison 2, qu'est-ce que je peux vous raconter, etc. Et je me suis dit que j'allais faire un podcast pour expliquer pourquoi je détestais les profs. Parce que au moment de choisir le sujet, c'est full impro. Comme chaque podcast. Au moment de choisir le sujet, j'ai réfléchi, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut faire une heure? Et après, je me suis dit, quand même, communiquer ma haine des profs, ça peut facilement faire une bonne heure de podcast. Bon. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, attention, je sais qu'il y a pas mal de profs qui écoutent mon podcast, je sais qu'il y a pas mal de profs qui justement, pour aucune raison que je connaisse, se sont décidés à passer un CAPES. La dernière fois, j'ai croisé un mec qui m'avait reconnu, et il me dit « Ouais, je passe le CAPES, je sais pas quoi ». Je fais « Attends ». Déjà, il y a un truc que je déteste, c'est quand un mec est en groupe et me reconnaît et qu'il n'y a que lui qui me serre la main. Je me dis toujours, mais attends, tu traînes avec des mecs qui me connaissent pas ? Si tu veux, il y a mon côté nazi. Voilà, libération, servez-vous. Il y a mon côté nazisme qui ressort. Je me dis, attends, je comprends pas. Attends, fils de pute, je comprends pas. Ça fait plusieurs années que je t'explique que les gens autour de toi sont extrêmement importants, qui vont créer ton avenir et ton présent, que tous les exemples de l'actualité, de ce que vous voulez, me donnent raison, que mon exemple de vie, bref. Et toi, tu traînes avec des mecs de ton école qui me connaissent pas. Je vais vous expliquer un truc. Si vous êtes entre 20 et 30 ans, individu français, que vous avez une connexion internet et un accès aux réseaux sociaux, si vous me connaissez pas, si en fait vous me connaissez, c'est juste que vous êtes une merde en fait. Globalement, c'est que vous êtes catastrophique. Pourquoi ? Parce que c'est que vous êtes en fait soit un gauchiste, soit vous êtes un droitard rageux de merde. Alors le mec est à... Non, je crois pas qu'il était à Sciences Po, mais bref, il était dans une fac de Paris, donc, je sais pas pourquoi je parlais de ça, le gars. Mais attends, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, voilà, il préparait un CAPES, et il y a ses potes sur le côté qui regardaient la scène. Je me suis dit, bon, bref. Vite, faire le ménage, vite. Arrêtez, c'est pas parce que vous avez bouffé un panini à midi avec eux que c'est vos potes, c'est des merdes, vous le savez très bien. Donc, maintenant que j'ai expliqué pourquoi ne pas me suivre était une fatalité. Oui, alors je me suis dit que les profs, oui, ça ferait un bon sujet. Vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je considère qu'ils ont un problème psychologique. Pourquoi est-ce qu'ils ont du sadisme. C'est pas pour vous faire une histoire 7 à 8. C'est pas pour vous expliquer avec ma voix modifiée que les profs m'ont violé et que c'est pour ça que je suis si haineux. Non, c'est parce que j'ai toujours ressenti beaucoup d'injustice dans le comité des profs. Beaucoup de seum des individus qui pourraient sortir de la masse de zombies qui leur permet. En fait, je pense qu'en comprenant ce qui se passe dans la tête d'un prof, on peut comprendre ce qui se passe dans la tête du socialisme et d'un État. Et je pense que c'est fort de leçons. Pourquoi? Parce que l'État est exactement, se comporte exactement pareil, c'est-à-dire qu'il souhaite absolument avoir des zombies, avoir des esclaves, avoir des individus neutres en personnalité qui obéissent aux règles. Et avoir à gérer des personnes qui sortent de ce cadre, c'est insupportable. Et l'État, à la même manière que les profs, et les profs, vous allez le voir à travers mon discours, sont le relais absolu de l'État. Les profs qui sont des énormes gauchistes, qui font des manifs CGT, je sais pas quoi, soi-disant, s'avèrent en toute chose, en tout lieu, en tout temps, en permanence, être les relais infaillibles de l'État. Donc c'est une première interrogation qu'il faut se poser. Comment est-ce que des gens qui se prétendent aussi LFistes et aussi gauchistes qu'eux sont en permanence au service et en relais absolu, en amplification de la parole d'État? Ça, c'est déjà un premier mystère qu'ils auront du mal à expliquer. Mais oui, alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, enfin il y a pas mal de profs qui m'écoutent, beaucoup d'entre vous non, mais il y a pas mal de profs qui m'écoutent, et je sais que ils essayent ils essayent d'apporter quelque chose d'autre à l'éducation, ils se rendent compte des problèmes, ils se rendent compte de la prison politique dans laquelle ils sont plongés, qui s'appelle la salle des profs, ils se rendent compte de la médiocrité, et en fait on se rend compte que je voulais vous parler de ça parce que l'enfance, la fabrique des enfants est la fabrique de l'avenir d'un pays. Et croire que c'est un sujet comme ça à jeter par-dessus l'épaule, ouais, les profs, MDR, je sais pas quoi, c'est vraiment ne pas comprendre le merdier qu'on est en train de créer pour l'avenir. Et je vais vous prendre n'importe quel pays, je peux vous donner son futur par rapport au nombre de pères absents, par rapport au nombre d'avortements. Et par rapport à la qualité de son éducation, de son enseignement. La qualité de son éducation et de son enseignement, à travers la qualité de ses élèves aussi, parce que ça joue, en fait, les classes, on va parler des classes et des profs, hein. Les classes, ça joue. Et le budget alloué, la compétence des profs, la pédagogie des profs, et tout ça est lié et est obtenu uniquement par le feedback. Uniquement par une boucle de rétroaction. Aujourd'hui, je vous le demande, quelle est la boucle de rétroaction qui permet le contrôle des professeurs? Ben, je vais vous donner la réponse, c'est la même que la boucle de rétroaction qui permet le contrôle des magistrats et des juges. Autrement dit, elle est inexistante et il y a un laisser-aller absolu. Je pense que les pays dont l'éducation est un service, c'est-à-dire qu'il y a un coût à l'école. Alors je dis pas que le coût doit être exorbitant. Je suis pas du tout pour un modèle à l'anglaise avec en fait un accès réservé et privatisé totalement aux grandes fortunes. Parce que l'Angleterre c'est quand même un cas particulier. Même le modèle américain qui est stupide. Hein. Franchement, s'endetter sur des dizaines et voire des centaines de milliers de dollars pour avoir un job mal payé, je sais pas quoi, mais en fait être déjà esclave alors que t'as même pas encore trouvé de travail, c'est de la merde. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est les pays dans lesquels l'éducation est traitée de manière rigoureuse comme un service et où les profs en fait sont redevables car employés et non pas fonctionnaires, je pense que ça, c'est un moyen d'obtenir une éducation bien plus aboutie. Autrement dit, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer en des mots compliqués, c'est qu'il faut pouvoir rendre responsable des profs et que les parents aient une capacité d'exigence de l'école et des profs. Actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, tu es parent, tu subis. Tu mets ton enfant et tu subis, et pendant au moins un an, il va se taper au moins un prof merdique. Au moins. Et tu subis, et son école, et tu subis la classe de merde, et tu subis les profs qui sont absolument injustes. Et justement, je vais vous raconter ma scolarité du début à la fin, pour qu'on se rende compte un petit peu des points qui m'ont rendu assez aigri au sujet des instituteurs, des profs, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je leur pardonne pas, pas par rapport à mon expérience personnelle, mais de manière globale, parce qu'ils appartiennent à un système qui fabrique de la merde. Ils appartiennent à un système qui fabrique de la merde parce que eux-mêmes sont des fils de pute, en fait. Eux-mêmes sont des affreuses personnes. Et là où je vous retrace un parallèle entre l'État et l'enseignement, c'est dans le favoritisme des cas sociaux. Voilà. L'État français et son relais premier qui est l'enseignement ont une politique commune intégrée et avec le cœur, c'est le favoritisme des cas sociaux et la destruction des individus brillants. Et du sexisme, alors là, n'en parlons pas, la favorisation absolue des femmes. Alors que les féministes soient d'accord ou pas, j'en ai absolument rien à foutre. Mais on va voir exactement comment ça se passe à l'école, et je sais que vous l'avez toujours su, vous l'avez toujours subi, et on va le revoir, et vous aurez peut-être des similitudes à travers mon parcours et le vôtre. Donc, on commence cette petite histoire, je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà qui est fait. Alors déjà, voilà, déjà, carrément, j'avais pas prévu de parler de ça, mais on va commencer par la crèche. La crèche, c'est une garderie qui, d'ailleurs, aujourd'hui, a des coûts. Moi, je l'ai appris, hein, quand ma sœur, elle m'a dit que ses enfants étaient allés à la crèche. Et qu'elle payait genre une grande partie de son salaire pour ça, j'ai fait mais attendez, je pensais que la crèche c'était un truc d'épanage municipal qui était indexé sur nos impôts en fait. J'ai pensé que nos impôts payer des choses en France. Je pensais que nos impôts servaient à payer des choses en France. Le meilleur système social du monde, je sais pas quoi. Donc non, j'apprends que la meuf elle payait cher et tout. Donc les crèches, c'est d'abord une conséquence du fait qu'on ait abandonné nos femmes. Parce que nos femmes deviennent des mères et elles sont obligées de retourner au travail pour des raisons économiques, parfois parce qu'il faut remettre un salaire, sachant que ce salaire va passer en partie dans la nounou ou dans la crèche, et pour des raisons aussi de carrière, c'est-à-dire que bah, dans le futur, si tu as eu un trou de non-emploi et que tu es une femme pendant X années, ça peut te pénaliser de manière définitive dans beaucoup, beaucoup d'emplois. Et puis en plus, quand t'as des métiers un petit peu à haute responsabilité, etc., bah en fait, on te fait plus forcément confiance, ou alors bah on va te mettre des bâtons dans les roues, et là, on entre dans un autre sujet qui est la toxicité du monde du travail. Et à quel point les femmes ont l'air d'être vraiment... de tenir à continuer à être plongées dans un monde extrêmement toxique. Bref, c'est un autre sujet. Donc oui, on commence avec la crèche. Bon, je vais pas vous raconter que j'ai des souvenirs de crèche, parce que ce serait faux. Je sais que mes parents, au début, me mettaient chez une nounou, une nourrice, je sais pas quoi, et que ça, faites très attention, parce qu'apparemment, j'ai changé plusieurs fois de nourrice, parce que il y avait des retours en pleurant, ils apprenaient qu'en fait, on se faisait taper, ou je sais pas quoi, ou on se faisait mettre à part, enfin, ou des trucs où la meuf elle te laisse devant la télé ou je sais pas quoi, enfin bref, c'était de la maltraitance, c'était de la merde. Évidemment. Pourquoi? Parce que aucune femme n'est capable de s'occuper des enfants des autres. Ça, je veux vraiment que ça imprègne votre cerveau, parce que vous avez cru qu'il y a des meufs parce qu'elles se sont retrouvées assistantes maternelles à la crèche ou je sais pas quoi. T'inquiète, c'est une passion, elle fait 1m52, donc forcément elle aime les enfants. Oui, parce que les femmes petites, en fait, j'ai remarqué, sont très aiment beaucoup les enfants. Non, c'est impossible, les marmots, il y a personne qui peut gérer un enfant comme sa propre mère, c'est-à-dire que en tant que père, vous, c'est impossible, vous n'avez pas la patience, vous n'avez même pas les outils de compréhension cérébraux. Notez que si j'avais dit ça dans le sens inverse en parlant des femmes, on m'aurait taxé de sexiste, de misogyne, de je sais pas quoi, mais là, je peux le dire parce que c'est des hommes, je pense qu'il nous manque des compétences cérébrales pour... comprendre, pour écouter, pour être patient avec des enfants jusqu'à un certain âge. Alors ne parlons pas des bébés à la crèche en fait, parce que c'est ce qu'ils sont, hein, c'est des bébés. Ils savent pas parler, faut les changer, enfin c'est horrible quoi. Enfin c'est pas horrible, hein, c'est le miracle de la vie, mais c'est horrible en fait de s'imaginer que la responsabilité va reposer sur les épaules d'une femme qui ne les connaît pas, elle ne les a pas accouchées, c'est pas son sang, et c'est impossible. C'est impossible de faire preuve d'autant, même d'un petit peu de suffisamment d'amour, de trucs, pour autant d'enfants qui ne sont pas les tiens. Tu ne peux pas les supporter parce que il y a que votre mère Et c'est pareil, hein, même votre grand-mère ou quoi, ça va être difficile, mais il n'y a que votre mère qui est capable de supporter autant de choses, de prendre sur elle, d'avoir la patience. Et c'est pour ça que régulièrement, et malheureusement de plus en plus régulièrement, y a des choses terribles qui se passent dans les crèches. Hein. D'ailleurs, pareil, je connais des pays, en fait, bah, à Dubaï, où il y a des caméras dans les écoles. Et ça permet d'avoir la fameuse boucle de rétroaction dont j'ai parlé plus tôt. Il y a des caméras dans toutes les écoles, dans toutes les classes, ce qui permet aux parents, notamment quand ils laissent des enfants en petit âge, de... Oui, parce que Dubaï, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pas les fils de pute de télé-réalité. Hein. Dubaï, en fait, on vous montre des trucs où il y a des voitures de location de luxe, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Dubaï, c'est avant tout un endroit familial. Hein. Bon, c'est parenthèse, parce que les gens, je crois que les gens sont pas au courant, parce qu'ils pensent que Dubaï, c'est l'exonération fiscale, et le bling-bling, et les meufs les meufs, comment, les Émiratis qui traînent pas avec les meufs en string dans les piscines, avec de l'alcool, avec des trucs, tu repars du restaurant à 2000 euros la note. Non, non. Dubaï, c'est un endroit extrêmement familial, bref. Donc, oui, Dubaï, ils mettent des caméras dans les classes, ce qui permet aux parents de contrôler le service dont je vous parlais tout à l'heure, le service qui est donné, qui est rendu, et de juger, et de dire, bon bah attends, là moi je vous vois, et ça permet aussi de savoir ce qui se passe réellement dans les écoles. Dans les crèches françaises, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça, moi ça me rassure pas, donc c'est pour ça que mon fils n'est jamais à la crèche. Mais bon, on avait aussi l'occasion d'être avec lui. Bref, c'est pas pour faire la leçon, c'est juste pour commencer avec le concept de la crèche. La crèche, quand on y pense, c'est un enfant qui est sorti de sa famille. Il est sorti de sa famille, soi-disant pour des raisons de sociabilité, c'est faux, ça c'est un truc inventé, on en parlera si jamais je fais un podcast sur la paternité, etc. Ça c'est un concept qui est utilisé et abusé en fait pour vous scammer. Le sociabilité, ça peut tout à fait venir grâce aux activités extrascolaires, grâce aux activités avec des adultes, grâce au contact du monde, grâce et dans un autre âge avancé, et la sociabilité vient avec la confiance. Les enfants, quand ils ont confiance en eux, ils sont beaucoup plus sociables. et en fait, bon bref. S'il se fait bolosser à l'école, il aura beaucoup moins de sociabilité que s'il a confiance en lui avec l'école à la maison, ça je vous le dis tout de suite. Oui, donc voilà, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va se construire avec plus d'heures à l'école que avec sa maman. Et en plus, quand sa mère, elle rentre du travail, elle est exténuée, donc elle casse les couilles, donc elle est à fleur de peau, donc elle va reprocher, elle va essayer de se débarrasser en donnant à son mari l'enfant, en disant c'est bon, tu lui fais ça, moi je lui fais ça. Bon, ça devient un fardeau en fait. Tout ce système a fait de l'enfant un fardeau. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'exagère, hein, tout ce que je dis et j'exagère. Moi, mes parents n'ont jamais considéré qu'on était des fardeaux. J'ai deux sœurs, j'ai deux grandes sœurs. Et il y a moi, qui suis le dernier, et je veux dire, ils ont fait beaucoup de choses et ils étaient très heureux au contraire de rentrer voir leurs enfants. Bref. Mais c'est juste pour que vous compreniez déjà le premier ancrage des êtres humains dans l'éducation nationale, ça intervient à la crèche par défaut, par dépit économique, par dépit de temps, par dépit de ce que vous voulez, et on sait pas ce qui s'y passe. Et vous n'allez pas me faire croire, ouais, truc, t'inquiète, moi je travaille dans une crèche. Vous savez pas ce qui s'y passe. Vous ne savez pas si vos enfants ont pleuré, s'ils ont pleuré énormément, s'ils ont pleuré un petit peu, s'ils se font mordre par je sais pas quel sauvage qui traîne, s'ils se font maltraiter par la prof, si truc, truc, truc. Et après vous apprenez, parce que moi ça m'a choqué la dernière fois là, qu'on a entendu les témoignages des meufs là, des crèches privées, il y a eu un gros truc, je vous en ai parlé dans le podcast. Elle disait, ah bah on a été obligé de couvrir un enfant qui s'était cassé le col du le coccyx ou je sais pas quoi, et puis un autre truc il fallait couvrir, et la meuf disait en gros qu'elles avaient couvert parce que la direction leur avait demandé, t'sais. Donc vous ne savez pas. Donc ça c'est la première chose, c'est que les enfants de tout petit âge sont gérés par des femmes qui ne sont pas leur mère, en grand nombre. Aujourd'hui il y a des smartphones, et je peux vous dire que si j'avais des caméras dans les crèches de France, vous verriez énormément de consommation de TikTok par les assistantes maternelles. Je suis désolé s'il y en a qui sont assistantes maternelles, elles vont me garantir le contraire. Et moi, j'ai mon petit doigt qui me dit que ça consomme du téléphone portable en veux-tu en voilà, qu'il y a plein de choses qui échappent à leur attention. Ok. Donc ça, c'est première chose. Bon, ensuite, il y a la maternelle. Bon, la maternelle, je veux dire, je vais pas commenter les profs en maternelle. Voilà, ils sont comme ils sont, je les connais pas, je me souviens pas. Mais la maternelle, c'est le même concept, hein. La maternelle, c'est juste une garderie supplémentaire. C'est intéressant parce que l'enfant va pouvoir s'occuper, va pouvoir faire des choses. C'est un âge où ils ont vraiment envie de découvrir. Il y a autre chose à leur donner que de l'amour. Il faut vraiment provoquer leur curiosité, leur apprentissage, etc. Et voilà, j'ai pas de truc particulier à dire sur la maternelle. Bon, vient ensuite l'école primaire. Donc moi, en fait, c'est là où mon parcours devient atypique. C'est que, sachant lire, j'ai sauté le CP. Donc en fait, je suis arrivé au CP, j'ai fait 3 semaines, je crois, de CP. Je me souviens plus exactement ce qui se passait, mais en gros, je passais les tests, ils m'ont fait des calculs, des trucs. Et après, je suis arrivé au bout de 3 semaines, je suis passé en CE1. Et là, c'est le début où ça a été un peu compliqué dans ma scolarité, parce que de la faute de mon père, tout est de la faute de mon père. Je suis pas avec une génétique de grand, en fait, tout simplement, puisque je suis 1m70, donc je vous laisse imaginer que j'étais le plus petit à chaque fois, et j'étais aussi le plus jeune. Et vu que je suis né fin août, bah j'avais pas un seul mois d'avance, j'étais né pour la rentrée, quoi. Putain, je suis né pour aller à l'école, à la rentrée. Et bref, et je me souviens que dans cette classe, y avait une prof qui s'appelait Véronique J. On va essayer de pas lancer les blazes. Mais des fois, elle avait des coups de sang. Elle avait des coups de sang et elle nous tapait. Mais pas, elle nous mettait une baffe ou quoi. Genre, elle attrapait une tignasse d'un enfant juste parce que genre elle en pouvait plus qu'il se trompe d'exercice, qu'il se trompe dans la solution. Et genre, elle l'attrapait et moi, ça m'est arrivé une fois. Et elle m'avait attrapé les cheveux, elle m'avait tiré les cheveux, et j'avais pas compris, tu sais. Et ça, en fait, il y a deux types de réactions d'un enfant. C'est une réaction qui a été la mienne, c'est-à-dire d'être tellement, en fait, de tellement pas comprendre, de te sentir tellement humilié que jamais de la vie tu le raconteras à tes parents ni rien. Parce que tu te dis, mais putain, mais... En plus, tu te dis, mes parents, ils vont me niquer ma race, parce que... Oui, parce que je vais pouvoir vous raconter aussi cet aspect-là, hein, de mes parents qui étaient jamais de mon côté. Tu te dis, mes parents, ils vont me niquer ma race, parce qu'ils vont se dire que j'ai fait une connerie, et que la prof, elle a bien eu raison, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un regard très, très critique, hein, sur les violences, des profs, qu'on pouvait avoir dans des systèmes, scolaires précédents, bon, même si c'était des coups sur les doigts, etc. Je juge que ils sortent de leur rôle. Genre vraiment. Aujourd'hui, quand j'entends des profs qui confisquent des téléphones et tout, moi c'était le cas évidemment à mon époque, je me dis que c'est un truc de trop. Parce que le téléphone, c'est l'intimité, le téléphone, c'est le lien en cas d'urgence, le lien de truc, tu connais pas la vie des gens. Si ils cassent les couilles sur le téléphone, tu les vires de cours, point barre. Tu te mets pas à leur confisquer, enfin c'est n'importe quoi ça. Bref. Je me souviens aussi qu'en CE1, il y avait. C'était assez intéressant parce que la prof avait séparé la classe dans un il y avait un genre un quatuor des quatre qui réussissaient le mieux et tout le reste. Et en fait, ça lui permettait de pas trop aller vers les quatre dont je faisais partie. C'est pas pour faire le mec, hein, je suis pas en mode super fier d'être le gars qui avait des bonnes notes en CE1, hein, je vous rassure. J'ai d'autres compétences pour être fier d'autres choses. Mais du coup, ça permettait d'avoir des temps différemment répartis. Et là, on avait un traitement que je trouve intéressant, c'est-à-dire que bah quand tu étais très bon et quand tu étais débrouillard, etc., on te confiait des exercices plus difficiles, on essayait en fait de faire en sorte que tu t'ennuies pas. Et ça, c'est un point, retenez bien, parce que c'est un point essentiel. Bon, je vous passe un peu la primaire. Moi, je sais qu'en fait, j'étais un enfant souriant et je l'ai payé. Je l'ai payé, j'étais un enfant souriant, j'étais aussi un enfant plus jeune, comme j'étais plus petit, donc je voulais déjà raconter. J'ai créé un modèle de survie, même si ce modèle de survie a été amplifié surtout au collège. En primaire, je sentais pas trop ça, il y avait des bagarres, il n'y avait pas de soucis. C'est au collège où j'ai vraiment ressenti la différence d'âge, surtout parce qu'il y a la puberté, j'imagine. Et ça m'a forcé à mettre en place un système pour ne pas être la victime, mais comment? Mais en étant le mec qu'on aime bien, quoi. Et donc, il fallait, en gros, je vous le dis tout de suite, en fait, il fallait que je sois marrant, il fallait que je foute la merde, il fallait que je sois le mec qui casse les couilles, qui attire l'attention. Donc, je vous dis pas. Là, je vais vous parler du traitement avec les profs. Je vous dis pas que je l'ai pas mérité. Je vous dis pas que j'étais pas un enfant un petit peu turbulent. Mais on y arrive. Bon, il y a toujours des profs qui te prennent en grippe, etc. Le problème, c'est que quand t'es en primaire, bah, tu te les tapes toute l'année. Donc ça, à la limite, bon, c'est pas grave, on va passer sur la primaire. Mais en CE1 et en CE2, en CE2, on était dans une double classe, un double niveau, c'était CE2-CM1. Ce qui permettait, quand t'avais des facilités, etc., encore une fois, d'avoir une sorte de traitement de faveur, entre guillemets, qui faisait que tu t'ennuyais pas, t'étais plus stimulé, etc., etc. Et là, en fait, on va arriver au collège. Les profs au collège. Et c'est là, en fait, où ça commence à partir en couille. Au collège, il n'y a plus du tout autant de moyens. Ah, attendez, j'ai oublié de revenir sur la primaire. Attendez, j'ai oublié de revenir sur la primaire. J'étais à la cantine en école primaire. J'étais à la cantine parce que, bon, mes parents travaillaient le midi ou quoi, enfin, ils travaillaient toute la journée, donc il n'y avait pas moyen de rentrer. Je pouvais rentrer à la limite avec mes sœurs qui rentraient du collège et du lycée, mais c'était plus facile pour moi d'aller à la cantine. Et puis la cantine, en vrai, c'est cool, parce que la cantine, c'est le moment où tu manges avec tous tes potes, c'est le moment où, où tu rigoles, c'est le moment où après tu vas à la récré ou alors tu fais des trucs, donc la cantine, ça déchire. Et je me suis fait virer de la cantine, en fait. Je me suis fait virer de la cantine en CM2, donc en toute dernière année. Et là, je vais essayer de mêler... C'est ça, je vous dis ça pour que vous soyez des meilleurs parents sur ce point-là que l'ont été peut-être nos parents. J'ai essayé de mêler à quel point les parents prenaient toujours fait et cause pour le prof et jamais pour moi. Je me suis fait virer de la cantine parce que j'ai craché sur un surveillant, ok. Il y avait un pion, je lui ai craché à la gueule. Et je me souviendrai toujours du dimanche. En fait, le dimanche, à l'époque, quand vous receviez un appel sur le téléphone fixe de la maison, un dimanche, au moment des guignols de l'info, ou après téléfoot, ou je sais pas quoi, votre cœur commençait à battre. C'est-à-dire, votre cœur commençait à battre. Votre cœur commençait à battre, parce que vous saviez que c'était pas normal qu'il y ait un appel, et que c'était probablement l'école. Et en fait, je me souviendrai toujours du dimanche où Madame Arnoux, la directrice de l'école, a appelé. Et c'est mon père qui a répondu au téléphone. Il y a eu un bouton mute sur la télécommande. Il a mis en muet la télé. Et là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides.
Putain.
Oh sa mère. J'étais pas bien parce que je savais à peu près... il n'y avait pas le haut-parleur, mais je savais à peu près sur sa tête qui était au téléphone. Quand il y a eu des vouvoiements... Il y a un deuxième truc de fou furieux aussi, même si la chante des générations, c'est quand il y avait des messages vocaux sur le téléphone. Putain, enculé, quand je suis allé sur la Freebox pour les supprimer. Non, mais je crois que vous comprenez pas, en fait, parce que si vous avez une éducation, enfin une scolarité sans tracas, si vous êtes une meuf, vous ne comprenez pas, déjà. Si vous êtes une meuf, vous ne comprenez pas ce que c'est la vie d'un homme dans la scolarité. Le niveau de mots dans le carnet, le niveau de des parents qui t'explosent et tout. Donc, bon, je reviens. Il y a un appel, mais mon père m'a explosé, mais d'une force. Et en fait, je savais que c'était une injustice profonde, et je l'ai vécu comme un traumatisme de ouf. Et je lui ai révélé la vraie raison, là, il y a quelques années, je crois, ou il y a quelques mois. Et en fait, la vraie raison, c'est que oui, j'avais craché sur ce fils de pute, parce qu'on avait un pion, donc qui surveillait le repas à midi et tout, qui faisait des trucs... dégueulasse, en fait. Il faisait des blagues vulgaires et tout à table. Genre, il prenait une banane et il, tu sais, il faisait des actes sexuels avec, tu sais, en nous regardant comme si ça nous faisait rire ou je sais pas quoi. C'était très 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 chelou. Honnêtement, c'était très chelou. Je comprends pas ce qu'il était attardé mental. Enfin, je veux dire, j'ose pas imaginer que c'était un pédophile, hein, mais pourquoi il faisait ça, en fait, ce malade mental? Bah si, c'était un pédophile, en fait. Maintenant, il faut... Les enfants, en primaire, ils ont entre 6 et 10 ans. Tu prends pas une banane en faisant des trucs... Qu'est-ce que c'est que ce mec? Bref, et je vois ça, et le mec me cassait les couilles, en fait. Il était tout le temps sur mon dos, tout le temps à me faire chier, nanana. Et genre, je me lève pour aller boire au robinet. C'était un robinet où on pouvait se laver les mains, où on pouvait... Et genre, il avait pas le droit de se lever parce qu'on avait pas le droit de sortir de table, je sais pas quoi. Et il vient me casser les couilles pour la 36e fois. Donc en fait, j'avais 10 ans, j'avais 9 ans. Et je supportais déjà pas les injustices et les mecs qui faisaient qui faisaient du zèle et tout. Et vu qu'en fait, c'était la fois de trop, j'ai pris de l'eau du robinet, là. J'ai tout gardé. J'ai bien fait... Attendez, je vais vous faire avec de l'eau pour que vous compreniez. Je sais pas si vous avez entendu, mais tu sais, quand t'as la bouche pleine et que tu fais des mouvements de bouche avec ton eau, tu sais, pour bien la faire mousser, et je lui ai tout craché à la gueule. Et là, il a pété un câble, ils m'ont... je sais plus. En fait, ce fils de pute me faisait bouffer avec les maternelles, j'avais oublié ça. Ce fils de pute, en fait, il y avait une punition quand t'étais en primaire, qui tombait genre à 80% du temps sur moi. C'était que quand tu faisais trop le cacou, quand tu rigolais trop fort, quand tu faisais trop de bruit, etc., tu allais manger de l'autre côté du réfectoire, sur les toutes petites tables avec les toutes petites chaises avec l'école primaire. Voilà, et j'allais très souvent manger avec les primaires, à cause de ce fils de pute. Bref, donc j'étais bien content de lui cracher à la gueule. J'avais rendu service à toute l'école. Et en fait, j'ai jamais pu raconter le truc et tout, mais je me souviens que mon père m'a explosé. Vraiment, c'était du crade, quoi. Bref, donc ça, c'est un petit peu pour finir avec cette école primaire. Oui, je me souviens aussi que j'avais une prof, pareil, elle s'appelait Véronique D, en CM2, qui était une énorme salope. En CM1 aussi, il y en avait une qui m'avait tiré les cheveux. Enfin, c'était infernal, en fait. Je sais pas pourquoi les profs se permettaient des trucs. En CM1, je me souviens que c'était le 11 septembre 2001. Il y avait tout un truc. Ensuite, c'est passé en Vigipirate. Les profs en pouvaient plus, etc., etc. Moi, je passais. Ah oui, bah. Je passais souvent les récrés à recopier des lignes devant devant la salle des profs. Ces enculés me faisaient recopier. Je ne dois pas faire du bruit d'animal en classe ou je sais pas quoi, tu vois. Non, les bruits d'animaux en classe, c'est venu après. C'est venu au collège. Donc, ils me faisaient recopier des lignes, ces fils de pute. Et ouais, la prof, je me souviens, en CM1, je suis arrivé en retard. C'était à l'époque des Vigipirates. Si vous étiez à l'école à ce moment-là, vous allez comprendre. Et tout était fermé de partout. Et à 8h31, tout était fermé. Il fallait entrer par les maternelles, là-bas. Je suis arrivé une fois en retard de toute l'année. Voire même de toute ma période scolaire. C'est la première fois que j'arrivais en retard. Et la meuf, elle m'avait parlé comme à une merde et tout. Elle m'avait fait... Bah, qu'est-ce que tu fous? Tu crois que je vais t'accepter? Je sais pas quoi. Mais c'était des gogoles. Des gogoles, ça. Et bref. Et oui, bon, bref. De toute façon, je finis avec ça. Mais c'est vrai qu'en CM2, la prof était une énorme pute. Elle me virait on allait regarder un film, tu sais. On allait regarder un visionnage. Elle me virait du truc. Je sais pas, tu sais. Bon, peut-être que j'étais infect, mais à mon avis, je voulais juste rigoler. Et oui, donc j'étais un élève souriant, un élève heureux. Et mes profs croyaient que je me foutais tout le temps de leur gueule, en fait. Et ils disaient à mes parents, et ça m'a suivi jusqu'au lycée, ils disaient à mes parents, mais en fait, on a un problème avec Ismail parce que il se fout de notre gueule en permanence. Et c'est pas vrai, tu sais. C'était pas vrai. C'est juste que j'étais, tu sais, j'avais toujours un sourire. Enfin, j'étais un mec heureux, en fait. Et les mecs, ils disaient, il a un sourire narquois. J'ai appris le mot narquois à cause d'eux. Il a un sourire goguenard. Il est insolent et tout. Et genre, juste parce que j'avais une gueule qui était pas zombifiée, où ils m'ont pris mon âme, tu sais. Mais c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je leur en veux énormément, en fait. Parce que mes parents se faisaient convoquer pour dire que je leur souriais comme un mec qui... Tu sais, j'étais le Joker, tu sais, à les entendre. Et là, tu te dis, mais vous avez vraiment un problème psychologique. Et en fait, je sais pas trop comment se positionner, parce que mes parents, en fait, quand je leur en parle, ils font « Ah non, non, mais les profs étaient des fils de pute, hein. » Et pourtant, quand j'ai vécu le truc, ils étaient pas du tout de mon côté. Alors peut-être qu'ils se sont dit que si par malheur, ils se mettaient de mon côté, j'allais enclencher la deuxième, me sentir protégé et être infernal. Donc je sais pas trop comment ils ont géré ça. Bref. Arrive le collège. Aïe, 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 aïe. Arrive le collège, et là, au collège, par contre, ça ne plaisante plus, que ce soit avec les profs ou avec les classes. Ce qui se passe, c'est qu'en primaire, les redoublants, les doubles redoublants, se sentent mal, un minimum, font pas les cacous, ils sont pas méchants, ils ont pas encore l'âge de l'être, il n'y a pas de souci vraiment majeur avec eux. Comment vous dire? Au collège, c'est le règne, et c'est là en fait où je vous dis, moi j'ai très peur de la suite avec mon fils, c'est que vous allez voir, et vous avez peut-être eu vous-même une croissance en résultats, en acquis, en niveau scolaire, et au moment de passer au collège, là c'est la débandade absolue. Les meufs échappent à ça, mais les mecs, c'est un carnage. C'est-à-dire qu'un enfant qui a du potentiel et tout, il se fait baiser la tête et en fait son niveau dégringole à cause des fréquentations, à cause du bordel dans le collège, etc. Alors moi j'étais au collège dans les années 2000. À partir de 2002 jusqu'à 4 ans, je sais pas, 2006 quoi, 2008. Non attends, 4 ans, 2006, ouais, c'est ça. Et en fait, il y a plusieurs problèmes à gérer au collège. Il y a plusieurs problèmes à gérer au collège. Il y a le fait qu'il y ait la puberté. La puberté amène des comportements chez les mecs de malades mentaux. Il y a des comportements de domination, il y a des comportements de refus d'obtempérer, de refus de l'autorité, il y a des comportements de penser comme meuf. Voilà, il y a des comportements en fait. Alors moi j'avais pas ça, j'avais un truc retardé. En plus j'ai pas eu ma puberté super. Enfin bon, je pense qu'elle était à 12 ans comme tout le monde quoi. Mais il y avait un côté, vu que j'avais sauté une classe et que j'étais. En plus, je vous dis, je suis de fin août, donc vraiment, il y a des mecs qui avaient un an et demi facilement d'avance sur moi. Il y avait un côté où je comprenais pas, ils me disaient putain, t'es maçon cul et tout. J'étais en mode, mais pourquoi il y a ses fesses et tout. T'es en mode petit enfant, tu comprends pas. Et en fait, au collège. Se passe non seulement ce violent changement de comportement et d'état d'esprit et de chimie en fait intérieure, preuve s'il en fallait que la chimie intérieure conditionne énormément de notre psychologie et donc de nos intentions politiques, hein. Voilà. Mais non seulement il y a ça, mais en plus il y a une cohabitation extrême entre des doubles redoublants qui sont en troisième, donc qui ont en réalité genre 16 ans, 16 ans, et des élèves de sixième qui ont 10 ans, qui ont 11 ans, voire même 10 ans dans mon cas. Donc en fait, quand vous cohabitez dans des réfectoires, dans des cours de récré, avec des individus qui ont 6 ans de plus que vous, si vous voulez, qui sont des hommes en fait, qui sont déjà pubères, etc., de loin, parce qu'à 16 ans, vous voyez ce que je veux dire, il y a des problèmes, il y a des problèmes de fréquentation, il y a des problèmes de tirer vers le bas, il y a des problèmes de c'est le bordel en fait. Et moi déjà à mon époque c'était le bordel. Il y avait des feux d'artifice tirés dans les classes. Il y avait des mecs qui partaient, qui lançaient des chaises par les par les escaliers, qui lançaient des chaises, je sais pas quoi. Il y a des profs qui se faisaient mal parler parce que c'est ça aussi quand vous avez des doubles redoublants dans votre classe et que vous avez sauté une classe, il y a 3 ans d'écart entre vous et eux. Et en fait eux, vous les voyez se lever en cours et dire au prof, mais tu me parles pas comme ça, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Mais c'est horrible en fait, parce que j'étais dans un collège de banlieue. Et les profs donc deviennent extrêmement aigris ou alors des serpillères. Et parmi eux, il y en a qui vont essayer justement, à la manière de l'État, tellement ils subissent avec les caïds, etc., qu'ils vont se venger dans des individus, des élèves qui vont être leurs victimes en fait. En quelque sorte. C'est des élèves qui vont tout le temps être punis, qui vont tout le temps se prendre des carnets de correspondance, qui vont tout le temps subir des remarques, parce qu'en fait les profs font des remarques. Ça c'était moins le cas déjà en primaire, mais au collège les profs font des remarques, les profs participent, voire créent des harcèlements. Les profs rajoutent du petit clash, rajoutent des petits trucs. Et ça c'est infernal en fait. C'est infernal. Et donc je me souviens que déjà à cette époque-là au collège, là j'ai commencé à me dire, mais attends, en plus on commence à avoir plein de profs, et il y a toujours ah ouais, ce prof, c'est un fou. Tu sais, tu comprends pas. C'est là où je vous dis, il y a un gros problème de rétroaction. Tu ne comprends pas. Il y a des profs qui ont une réputation de fou. Ça fait des années, en fait. C'est pas normal que ma sœur, ma grande sœur qui a 7 ans de plus que moi, elle ait eu le même prof que moi, qui est un fou. Normalement, un prof fou, il doit répondre de ses actes, tu vois. Il est fou, il est considéré comme fou, tout le monde sait que c'est un malade, qu'il est incompétent, que truc, que c'est le bordel dans ses cours et tout. Je sais pas, il doit être remplacé, en fait, c'est tout simplement. L'école n'est pas gratuite. L'école en France est gratuite parce qu'elle a été prépayée. Vous savez, c'est comme quand vous avez une carte d'abonnement téléphonique. Putain, j'ai 150 SMS gratuits. Mais non, ils sont prépayés, connard. Ils sont prépayés par les impôts. Alors, que tu les aies jamais payés de ta vie, c'est une chose, mais ils sont prépayés. Et donc, tu vois, il devrait y avoir une obligation, peut-être pas de résultat, même si je pense que si. Mais en tout cas, une obligation de service, une obligation de qualité de service. Et bref, et c'est au collège, en fait, que t'apprends qu'il y a des profs fous, en fait. Il y a des profs fous, tu prends ta première heure de colle. Je me souviens que quand je suis rentré avec ma première heure de colle, alors je me souviens, c'est parce qu'on avait un exercice en anglais avec une prof qui était une folle, qui s'appelait Madame Fouille. Elle avait les cheveux courts, elle se fringuait comme un mec, enfin, c'était catastrophique. Gris, court et gris, enfin, c'était... Elle ressemblait à la prof de Titeuf, là, mais en version cheveux gris. Et elle nous avait fait un exercice où il fallait écrire, c'était pour maîtriser je sais plus quel temps, « I would like to be quelque chose, j'aimerais être quelque chose, because, et fallait dire pourquoi. Genre, I would like to be a journalist because I am a big son of a bitch. Vous voyez? I would like to be a journalist because I'm a fucking lâche merde humaine, ok? Et en fait, j'avoue, je me suis fait avoir, j'ai voulu faire le malin, et j'ai lâché un gros I would like to be a... Attends, j'ai mis quoi? J'ai mis I would like to be a bitch because I like to suck. Enfin, un truc de débile, en fait. J'aimerais être une pute parce que j'aime sucer. Enfin, un truc de gros con, en fait. Ça, les meufs, vous pouvez pas comprendre, je suis désolé. Là, vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui se passe dans la tête d'un garçon qui devient adolescent, c'est qu'il est... Il est con, en fait. Mais il est con! C'est soit... En fait, c'est pour ça que quand je vois des lycéens... Qui font les keucs là, qui font les gays à faire les malins parce que pour plaire aux meufs, je peux pas les blairer en fait, parce que je sais qu'ils renient absolument leur masculinité toxique à balle pour essayer de gérer des meufs, pauvre enculé, et avoir un peu de popularité. Non, 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 quand t'es un mec à cet âge-là, t'es un abruti fini. Un abruti fini. Tu es bête, chacune de tes phrases, il y a des blagues de cul. Mais t'es exactement ce pourquoi, en fait, on met des grilles dans les eaux. Il y a des cages dans les eaux, exactement parce qu'on observe ton comportement et que c'est plus possible. Et bref, et donc, moi, j'étais explosé de rire. Mes potes, ils savaient que j'avais écrit ça, donc ils étaient explosés de rire. Et en fait, comme un abruti, à la fin, la prof, elle dit, c'est bon, j'ai lu... Elle a fait exprès de pas lire le mien. Elle fait, c'est bon, je les ai tous lus. Et moi, comme un con, je fais, ah, vous avez oublié le mien. Et du coup, par élimination, il restait que celui-ci. Bref, il y a eu une heure de colle. Il y a eu une heure de colle qui est partie. Il fallait la faire signer par mes parents. C'était la première fois. Je me souviens, je suis rentré chez moi. Il était 15h. Pour une fois, on finissait tôt. Je suis rentré avec la tête qui tournait, avec des sueurs froides. Je me suis allongé par terre dans mon salon, en regardant le plafond. Et j'ai dit, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Putain, mais je vous jure que... Je sais plus, tu sais, parce que quand je vois ce que je suis devenu, je me dis, bon, bah, nickel, fallait faire, vous touchez pas une ligne. Mais à la fois, je me dis, attends, comment ça se fait que j'étais traumatisé comme ça par mes parents, traumatisé par les profs et tout, mais attendez, mais c'est quoi ce délire, là? Parce que moi, je me suis dit, mais mes parents, mais c'est fini. Je suis un... Parce qu'en fait, j'ai eu deux grandes sœurs, faut que vous compreniez. C'est une... C'est... Mes parents, ils ont pas compris, t'sais. Mon père, il a... Mon père, il a décroché, il a pas compris. Il s'est dit putain, fils de pute. Chut, chut. T'as deux grandes sœurs. T'as deux grandes sœurs que j'ai eues. Première de la classe. Première de la classe parce qu'en fait, elles ont notre génétique, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement intelligentes. Les profs me convoquent pour me féliciter. Il y a des félicitations à chaque trimestre, un grand avenir, blablabla. Et toi, il y a des I would like to be a bitch because I like to suck, ok? Bon, déjà c'est grossier. qu'est-ce que tu fais? Toi, il y a des mots dans le carnet tous les ans en fait. Je vous ai pas dit, mais tous les ans, il fallait rajouter des pages à mon carnet. Et après, mes parents devaient payer pour avoir un deuxième carnet. Tellement en fait, mon carnet, il servait de correspondance. C'était un récit, un roman épistolaire, mon carnet. T'sais. Il y avait des échanges. Enfin, les échanges, c'était une signature de mes parents et une claque dans ma grosse gueule. Et quand c'en était qu'une. Et les profs qui se. Tu sais, j'avais des. Intolérants. Putain, mais qu'est-ce que je donnerais? Putain, mais les gars, en fait, je crois que je vais faire un hors-série bientôt où je vais vous trouver mes carnets et mes bulletins scolaires et je pense qu'on va exploser de rire. Et ouais, mes parents, en fait, on pouvait plus. Moi, ils comprenaient pas. Ils me reprochaient, en fait. Il me disait, mais pourquoi t'es pas comme tes sœurs et tout? Et en fait, maintenant, je me dis, mais putain, mais c'est des ouf. J'étais un garçon, c'est normal que j'ai un comportement totalement différent. Et bref, du coup, il disait que je leur foutais la honte, etc. Gna gna gna. Et bref, et donc ouais, je me souviens de cette première heure de colle, c'était pas facile. Et quand je suis allé à l'heure de colle, il y avait tous les caïds du collège, et j'avais rien à foutre là, mais rien du tout. Il parlait, ah, j'ai oublié, on va aborder les surveillants. Ah, on va aborder les surveillants. Les surveillants sont à l'image des profs qui sont à l'image de l'État. C'est des tyrans avec les gens qui sont solvables et ils étaient potes avec toutes les racailles de l'école. Ils faisaient, ah, ça va et tout, Adama. Oups! Il y avait un nom, Adama, vous inquiétez pas. Ça va, Bref, vous avez compris. Ils checkaient les racailles de l'école. C'est-à-dire les mecs, tu savais que derrière, ils faisaient des bagarres en bande avec des chaînes de vélo et tout, il y avait des histoires de fous. les pions, en fait, les checker. Pourquoi est-ce qu'il les checkait, ces grosses merdes? C'est parce qu'il voulait pas, il voulait pas se faire bolosser, il voulait pas se faire embrouiller, il voulait avoir les caïds à la cool. Comme ça, les caïds, ils sont sympas avec toi, truc. Et par contre, il redoublait, parce que du coup, toi, t'es un élève, tu vois qu'ils sont sympas avec les gros fouteurs de merde. Tu te dis, ah, bah cool, il est cool, lui. Il va être assez laxiste, il va être à... Hop, 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 hop. Toi, il t'attrape avec un téléphone, à avoir fait ceci. Mais gros, tu te fais mal parler. Il me chippait, ce fils de pute me chippait. Il y avait un surveillant, je me souviens, il me chippait. J'ai appris le mot chip d'ailleurs grâce à lui. Il me faisait. Mais attends, mais gros, mais pour moi, c'est la folie en fait. Quand t'as la vingtaine et que tu bolosses des enfants, tu sais, gentils et tout, au collège, mais tu mérites tellement de te faire aligner en fait. Et par contre, t'es sympa avec les racailles, bref. Et je me souviens que quand t'allais en heure de colle, donc t'étais avec ces pions, et les mecs laissaient aller totalement toutes les racailles, c'était des habitués. Ils parlaient fort, ils rigolaient, ils faisaient ah, vas-y, je reviens et tout, ils sortaient de la salle, nanana. Eh, toi, on surveillait que tu fasses bien l'exercice, que t'aies pas le droit de parler, si tu rigolais. Mais c'est des fous furieux. Et c'est pour ça que je vous dis, attention, le sadisme est en nous. Il y a plein de gens, ils méritent pas d'avoir une once de pouvoir parce qu'ils sont sadiques. Et si tu rigolais, mais non, mais c'était horrible. S'ils te prenaient en train de rigoler parce qu'il faisait des blagues avec ses racailles préférées, ils disaient, pourquoi tu rigoles là? Tu te crois où là? C'est sérieux? Mais c'est des fils de pute! Mais mon Dieu, c'est des fils de pute! Donc, pour revenir au prof, est-ce que c'est normal qu'il y ait la folle, tu sais? Il y avait une prof, elle s'appelait Madame P. C'était une prof de français. Elle commençait les cours, cette folle, avec ses cheveux gris, là. Elle parlait, elle faisait... Bon, les enfants, vous sortez votre carnet de liaison, votre dictionnaire, la trousse, le quatre couleurs, vous le mettez dans le coin, en haut à gauche. Genre, elle répétait le même truc, avec la même voix, en nous faisant mettre le dictionnaire en haut à gauche, le carnet en haut à droite. Et si tu le faisais pas, elle faisait, non, mais c'est pas le style, faut pas faire ça, tu mets le carnet en haut à gauche. Mais c'était une malade. C'était une grosse malade. Bref, pour une petite anecdote sur elle, je me souviens on était en troisième quand on l'a eu. Il y a des... Je vous raconte ma life de ouf là dans ce podcast, c'est un hors-série racontage de vie. Il y a des élèves de sixième qui l'aimaient bien, qui lui avaient offert une sorte de lion empaillé. Enfin, tu sais, ils avaient collé des trucs pour en faire un lion. Et bref, on était des fils de pute. Parce que genre, le lion, il avait une queue. C'est pas moi, hein. Je tiens à dire, c'est pas moi. Mais en fait, au début, il y a des mecs qui se mettaient au premier rang. Il était genre le premier rang était collé au bureau de la prof. Et il y avait le petit lion là. Et en fait, c'était un gros lion, hein, quand même, il faisait la taille d'un clavier d'ordinateur, en gros. Et au début, il lui arrachait des poils, il lui arrachait de la crinière et tout. Dès que la prof avait le dos tourné, tu sais, en plus, je veux dire, à ce moment-là, tu sais, des profs, dès qu'ils avaient le dos tourné, t'entendais... Fils de pute! Nique ta mère! C'était horrible, en fait. T'entendais des... Ah non, sale pute! Mais c'est horrible, en fait. Il se met la salope! Mais c'était que ça, en fait. Mais je comprends les profs, en fait. Je comprends. Mais c'est de votre faute. Parce qu'en fait, vous avez instauré un climat qui nous permettait de faire ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, en simultané, j'étais au conservatoire. Je vous l'ai déjà dit, j'étais au conservatoire. En musique et tout. Et, j'étais aussi au judo, j'étais dans des trucs. J'étais respectueux. J'étais on ne peut plus respectueux. Je faisais preuve de respect, j'écoutais, j'obéissais. Je fermais ma gueule, le prof y parlait, je faisais ce qu'il disait. Au judo, il y avait des consignes, on faisait ça, ça, ça. C'est pour ça que je vous dis que la France, c'est le même problème global, l'État français crée un milieu qui tire tout le monde vers le bas, qui entraîne, c'est une roue qui ne s'arrête plus, c'est une avalanche. C'est une avalanche. C'est horrible. Et bref. Donc je comprends en fait, je comprends les profs, ils ont pété des câbles et tout. Après ils se vengeaient, tu sais, au conseil de classe, ils se vengeaient. Donc ouais, et donc le lion en fait, la prof avait son petit lion et en fait il lui arrachait la crinière. Elle avait un petit flacon de parfum aussi, je sais pas pourquoi. Et le jeu c'était de, dès qu'elle a le dos tourné, d'appuyer sur le parfum pour lui vider le parfum. Mais c'est même pas marrant, mais ça me fume putain. Est-ce que vous imaginez le degré d'insupportabilité en fait? Il fallait et tu sais, le jeu c'était de lui vider son parfum, tu sais, au fur et à mesure. Et bref, et donc avec le lion, en fait, au début ça arrachait un peu la crinière, ensuite ça arrachait un peu les poils de la queue. Et genre un jour ils ont pris une paire de ciseaux Et ils ont coupé la queue du lion et genre ils lui ont mis dans la bouche. Enfin, c'était un truc d'enculé, tu sais. Et la pauvre, elle était en larmes. Je vous jure que c'est pas marrant, mais c'est horrible en fait. Mais quand t'es au collège, en fait, t'es horrible. T'es horrible. Et je me souviens, la prof, elle avait pleuré et tout. Genre, c'était un... pour une fois que des enfants lui faisaient un cadeau, les grands en troisième, ils avaient coupé la queue du lion. Tu sais, le lion, il avait une calvitie. Et en plus, ils avaient jeté la queue dans sa bouche. Enfin, c'était horrible en fait. C'était vraiment genre, toi, tu crois que tu vas avoir le droit au bonheur? Oh, pas sous ma surveillance. Il y a aussi, je vous ai raconté dans le podcast qu'on avait fait le burger pas ou le 10 000 burgers, je sais plus. Je me souviens qu'il y a aussi, bah, je vous dis, vous mettez des individus qui ont redoublé, qui sont en troisième, avec des sixièmes, mais les sixièmes, ils se font bahuter, ils se font bizuter comme des porcs, parce qu'en plus, les sixièmes, c'est abruti. Tu sais, en fait, le collège te force à te séparer de tes parents. C'est ça qui est horrible. Le collège te force à prendre du recul par rapport à tes parents et à plus jamais les laisser te dicter leurs choix vestimentaires, leurs choix de cartable, etc. Parce que les choix que les parents vont faire pour toi, ça va se voir tout de suite et tu vas te faire frapper, en fait. Quand t'as un sac à dos parachute en sixième, tu te fais frapper. Et c'est parce que tes parents, ils se sont dit que c'était pratique. Ils se sont dit, ah, pour reprendre tous tes livres et tout. Bah, en plus, tu finis par plus prendre tes livres. Tu prends plus tes livres parce que tu vas te faire frapper si ton sac est trop gros. Les gens, ils vont te pousser, tu sais. Me souviens, ils venaient. Ce qu'on faisait, c'est qu'on, parce que c'est à tour de rôle, hein. Quand on te l'a fait, tu le refais. Quand on voyait un gros sixième avec son gros sac, en plus ils sont petits, tu vois, on arrivait et on appuyait par derrière, on appuyait sur son gros sac, tu sais, pour qu'il tombe et qu'il puisse pas se relever. Mais c'est horrible. Et sinon, tu sais, on poussait le sac. Et pour que son sac l'entraîne et qu'il tourne sur lui et tout. Et après, ils ont mis une balayette. Mais c'est horrible, en fait. Mais putain, mais les parents et les femmes ne sont pas au courant de ça. Parce que les meufs échappent à ça. Les meufs sont jamais, les meufs échappent au monde. Tu sais, quand il y a une punition générale, elle va pas toucher les meufs. Les meufs, elles sont là, elles parlent pas, elles truc. Elles font du bitching entre elles, nanana. Leur seul souci, c'est si tu veux que la pauvre qui va avoir en premier dessin, parce qu'il y a des meufs, elles commencent à avoir des gros inces dès le départ, elles savent pas ce qu'elles ont provoqué. Ça va être, je peux toucher, je peux toucher. Putain, t'as vu les seins de Tiffany? Oh putain, elle a des gigantesques seins. C'est Tiffany gros seins. C'est non mais c'est horrible en fait. Une meuf, elle s'appelait Tiffany, elle avait des seins énormes, énormes. C'est tout ce que je peux vous dire. Et bref, en fait, c'est ça la scorité des meufs. Et elles sont là, elles s'amusent. On leur sert un spectacle. Parce que je vous le dis, moi, je défends les écoles non mixtes. Si les meufs, on leur sert autant un spectacle, c'est parce qu'on pense que les faire rire, ça va nous faire gagner des points de drague, en fait. Donc, en fait, on passe notre temps à nous battre entre nous, à bizuter les sixièmes, à dès que le prof a le dos tourné, à se lancer des trucs. Il y avait les sarbacanes. Il y avait les sarbacanes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un mec qui a vu qu'un stylo bic avec un effaceur ou je sais pas quoi, si tu mettais un bout de gomme ou de papier, ça faisait un phénomène de pression qui envoyait des papiers à 25 kilojoules. Et ensuite, moi je me souviens, parce qu'il y a eu un délire des sarbacanes, ensuite ça finit avec des lancers de compas. Hein. Les meufs n'étaient pas concernées par ça. Les meufs échappaient. Moi je vous le dis, le jeu en fait à l'école, c'est que le prof, il se tournait. Tu prenais, mon pauvre, ta gomme, en fait, tes parents, ils savaient pas pourquoi ils te rachetaient des gommes tout le temps. Ta gomme, elle servait à être coupée en petits bouts. Et après, t'avais des bouts de plus en plus gros. À la fin, ça jetait des sacs à dos. Je crois que vous vous rendez pas compte. Au lycée, je me souviens, le prof, il tournait la tête. Ça lançait des petits trucs et tout. Et en fait, il y avait une surenchère. À la fin, il y a un mec qui a pris un sac à dos. Il l'a lancé sur la tête d'un autre mec. Il s'est pris un sac à dos. Et tu sais, tu peux plus rien faire, en fait. Tu peux plus rien faire. Ça devient hors de contrôle. Et les meufs ne se font... Il n'y a pas une meuf qui s'est fait lancer quelque chose de toute sa scolarité. Et les meufs, il y a toujours des encouragements. Une meuf, elle n'a pas participé de l'année, elle a 12 de moyenne, c'est encouragement d'office. Toi, t'as 12 de moyenne, on te fait, ah mais t'es... Moi, j'ai pris, faut que vous compreniez, j'avais des très bonnes notes, j'ai pris des avertissements conduite toute ma scolarité, toute, de la première section de sixième jusqu'à la dernière de terminale. Avertissement conduite, j'ai même pris avertissement de travail, c'est tellement ils avaient le seum. Donc, attends, où est-ce que j'en étais? Oui, donc ta gomme, elle servait à lancer, mais c'était le jeu, quoi. C'était le jeu, c'est infect. Et ouais, et les sixièmes, ils se faisaient frapper. Donc, en fait, ta mère aussi, elle commence à arrêter de t'habiller, parce que quand elle t'habille, tu t'habilles comme un fils de pute. Et que quand ta mère, elle te dit, non, mais c'est très bien de mettre une chemise en dessous du petit pull et tout, tu passes pour un ingénieur, tu sais. Sauf que t'as 11 ans, donc tu vas te faire frapper. Ah, pour t'être pris pour un ingénieur ou un mec de la compta, tu vas te faire frapper. Non, mais c'est infect. En gros, c'est infect. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, en fait? Qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part qu'il y a des profs qui sont fous, qu'il y a des profs qui sont sympas aussi avec la racaille? Parce que les profs, en fait, ils subissent tellement qu'ils se disent, bon, là, j'ai compris la technique, c'est d'être sympa avec Abdelt. Parce que c'était Star, je suis désolé. C'est d'être sympa avec Truc, comme ça, il sera sympa avec moi, et voilà. Et par contre, s'il y en a un qui prend la confiance dans les petits, là, je leur mets à misère. Donc voilà, ça c'est pour le collège. Vient le lycée. Alors, lycée, Dieu bénisse le lycée, parce que tous les quintuples redoublants du collège sont enfin allés faire un métier. Ils sont allés faire un apprentissage professionnel, t'en es débarrassé, t'es. Ouf! Ouf! Bon, j'arrive en seconde. J'arrive en seconde, je deviens super pote avec un certain Loïc K, qui était double redoublant. Le mec avait 18 ans, voilà. J'arrive en seconde, je crois que j'ai quoi? J'ai 14 ans. Je crois que j'arrive en seconde, j'ai pas 15 ans, hein. Ah putain, je sais plus quel âge on est censé, 15, 16. Je crois que j'ai 14 ans, le mec avait 18 ans. Il me parle de sa meuf, de quand ils sont partis en voiture, je sais pas quoi, ce week-end. Il me parle de Dofus, parce qu'on jouait à Dofus comme des porcs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était quintuple redoublant. Et je me dis, attends, comment ça se fait que j'ai 14 ans et qu'il y a un mec qui a 18 ans dans ma classe? Et là, en fait, arrivent les problèmes secondaires. C'est que là, au lycée, commence à se former des couples. Il commence à y avoir des gens qui ont des relations sexuelles, en fait. Et toi, t'en es exclu, tu sais. Alors bon, il y en a parmi vous qui auront eu la chance de faire partie des mecs qui ont eu des bêtes de relations au lycée. Mais la plupart d'entre nous, on a vu le truc. On a vu le truc de loin, on était amoureux d'une meuf dans la classe, elle s'est faite troncher par un grand métis qui avait redoublé, ok? Et donc la frustration, en fait, est colossale. La frustration est colossale. Et à cette époque-là, il n'y a pas de Raptor Podcast, il n'y a pas de gens qui te disent, mais en fait, c'est ta faute, il faut que tu te mettes à faire du sport, etc. Et bref, donc je passe mon année de seconde, catastrophique. Là, mes résultats commencent à chuter. Mes rapports au prof commencent à être catastrophiques, je me fais virer de cours, la prof d'espagnol, elle me vire de cours toutes les semaines, le prof d'anglais, c'est pareil, la prof de maths, elle me vire de cours, enfin, je me fais virer de cours non-stop, en fait. En français, enfin, c'est horrible. En français, ça allait, mais bref. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, je me fais virer, tout court. En fait, ce qui se passe, c'est que je me fais convoquer chez le CPE. Chez la CPE en octobre, donc la rentrée c'est en septembre. Un mois plus tard, je suis convoqué chez la CPE avec mes parents et tout pour expliquer que elle voulait me faire signer un truc. Mais soit ma mère, elle a dit non non, Ismaël, tu signes pas. Elle voulait me faire signer un truc comme quoi si je me faisais encore attraper ou je sais pas quoi à faire nanin, j'étais viré. T'sais. Heureusement, j'ai pas signé. Et bref, c'est vrai que les profs. Alors il y a le cours d'art plastique. Est-ce qu'on a parlé des cours d'art plastique? Oh putain. Il y a un truc qui s'appelle le cours d'art plastique au collège ou au lycée, enfin surtout au collège, où t'as un prof qui est à la cool, et au lieu d'être installé par rangée de classe, deux par deux, tu mets les chaises comme tu veux, les tables comme tu veux. Donc en fait, t'as des banquets de mecs qui foutent la merde. T'as un niveau sonore, vas-y, je vais pas revenir sur les salles d'art plastique. Tu as un niveau sonore dans les salles d'art plastique, dans les cours d'art plastique, genre de 120 décibels minimum. Pour t'entendre, il faut crier. C'est horrible, tout le monde crie, tout le monde rigole, t'es entre potes, truc et tout. Et putain, je me souviens d'une scène en cours d'art plastique où genre on rigolait, on se mettait des coups de tête. Mais putain, mais les meufs, vous êtes pas au courant en fait. Mais les mecs, on est tellement cons que des fois on se regarde et tu sais, on met un coup de tête à un mec pour lui, tu sais, pour rigoler, tu sais. Bref. Non, mais je te jure, c'est un faux. C'est lamentable. Et t'avais des. Tu sais, on rigolait, on parlait, truc, on hurlait, nanana. Et en fait, on était en truc avec de la gouache, il y avait de la peinture et de la gouache et tout. Et il y a un mec qui s'appelle Harris, qui était un Indien, je crois, ou un Pakistanais, je sais plus, qui commence. En fait, notre but, nous, c'était se clasher, en fait. On faisait que de se clasher, de rigoler, de faire ah, nanana, ah, c'est pas drôle et tout. Bref. Et en fait, on était avec de la peinture, de la gouache. Et il a eu un délire, c'était de la rouler. Donc, il a roulé le petit tube de gouache, là. Et là. Il met un énorme coup de poing marteau dessus. Putain, mais pourquoi, tu sais? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Tu sais, il a roulé comme un tube de dentifrice pour qu'il y ait un maximum de pression. Et il met un gigantesque coup de poing marteau dessus. Et là, il y a une explosion de gouache qui va sur le manteau d'une meuf derrière. Parce que les meufs, elles étaient jamais concernées par les embrouilles. Et là, ça va sur le manteau d'une meuf. Et elle s'en rend pas compte. Et on, tous les mecs, on se retourne et on fait. La meuf, en plus, elle avait que des fringues qui coûtaient cher. Je me souviens, c'était un peu la bobo de la classe. Et il y a une tache gigantesque de peinture. Et on fait tous. Et là, tout le monde se retourne. Et tout le monde commence à avoir chaud et tout. Et tu sais, ça commence à se calmer. Et on bégaye, on sait pas quoi faire. Et là, on entend une des potes de la meuf qui fait. Anne-Sophie! Mais regarde ton manteau! Je vous jure, c'est un truc de gamin. Mais en fait, heureusement qu'on est des mecs, parce que même les trucs de gamin comme ça, ça nous explose de rire, putain, attendez. Ah, ça me fume. Et là, en fait, t'as plus un bruit. T'as plus personne qui parle dans les mecs, donc t'as le niveau sonore de la pièce qui repasse à 2 décibels, t'sais. Il passe de 120 à 2. Et là, elles se retournent toutes, parce que les meufs, en plus, sont vicieuses, hein. Elles sont toutes alliées, elles sont coalisées, elles ont décidé d'avoir une sororité à toute épreuve. Qui a fait ça, un truc? Et là, imaginez, en silence, alors que d'habitude, on fout la merde, on parle et tout. Tout le monde ferme sa gueule, tout le monde se regarde, et n'ose pas croiser les regards pour pas exploser de rire, parce que le premier qui explose de rire, il est mort. Il va se rattraper, sera de sa faute. Et là, en fait, on fait le pire truc à faire. C'est qu'il y en a un qui prend la parole pour accuser la victime de la classe, putain. Mais putain, mais c'est infernal, en fait. Et il y a, j'ai tout vu, c'est Pascal. Et c'est, ouais, parce que il y avait un mec qui s'appelait Pascal, bref, je vous en parlerai un jour. Et après, tout le monde fait, mais oui, c'est Pascal et tout. Ils font, ah, enculé et tout, c'est toi. On va te, c'est, on est des fils de pute. Et la meuf, elle y croyait pas une seule seconde. Le mec, il était même pas à table avec nous. Il était pas à table avec nous. Et là, elle voit la gouache qui est vide au milieu de la table. Elle voit le pot de peinture, enfin, le tube de peinture initial qui a permis ça. Et tout le monde commence à se le jeter, à faire, mais non, c'est pas moi et tout. Tu sais, à le pousser sur la table. Et après, on commence à se le jeter dessus. Et en fait, c'est horrible. Et bref. Et on n'a jamais, écoutez bien, on n'a jamais poucave. On savait tout ce qui c'était. On n'a jamais dénoncé le mec. Et pourtant, Dieu sait que toute la classe voulait se farcir la meuf en question. Hein. Donc on aurait pu se dire, ah, si je dénonce mon pote, elle va me trouver gentille et tout. On n'a jamais dénoncé le mec. Elle est venue nous demander chacun. On a dit, franchement, je te jure, je ne sais pas. C'est pas moi et je ne sais pas. Et personne, vous voyez, c'est ça la beauté. C'est ça qu'on perd en France. Et putain, et ouais, et donc en quatrième, je suis allé au lycée, mais en fait, on revient en quatrième. En quatrième, c'était l'année de tous les dangers, parce que je vous dis, il y a le théorème de Pythagore et de Thalès, et là, il y a les premières difficultés scolaires. C'est-à-dire que tous les enfants ont pensé qu'ils étaient bien bons en maths, et je sais pas pourquoi. Il y a une addition de trop à faire, et ils se font balayer par le théorème de Pythagore et de Thalès, ok? Et là, il y a énormément de redoublements. Et je me souviens que dans ma classe, quasiment tous mes potes ont redoublé à quatrième. Ils ont pas compris, ils se sont fait, putain, mais c'est bien, l'enculé, c'est toi en plus qui fait, c'est toi qui est à l'origine du plus de foutage de bordel, et pourquoi c'est, y a que toi qui passe? Et j'avais un prof, écoutez bien, j'avais un prof en quatrième de maths. Alors, moi, je sais pas, j'étais un abruti, tu sais. Genre, quand il fallait nommer un rectangle ou quoi, tu sais, au lieu de le nommer ABCD, je m'amusais à écrire, genre, DIC, tu sais, genre DICK, ou genre COQ, ou genre BITE, tu sais, voilà, c'était, mais en fait, t'as un problème avec le sexe, hein. quand t'es adolescent, tu as un lourd problème avec le sexe, vraiment, un problème mental, genre, je sais pas ce qui se passait à la préhistoire, je sais pas, il y avait combien de reproductions à cette époque-là, mais tu as un problème mental, t'as une obsession, mais maladive, en plus, t'as une libido qui est juste hors de ce monde, jusqu'à, cette libido-là, je pense qu'elle te suit jusqu'à, allez, 25 ans. Mais un truc hors de ce monde. Tu vois des seins, peu importe la propriété, tu veux les baiser. Peu importe. Tu vois un cul, peu importe. Tu regardes une pub à la télé, il y a une meuf, t'as envie de te branler. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Tu regardes un truc, Tu regardes la présentatrice météo, mais c'est horrible. Vraiment, hein, je sais, vous le savez, les mecs, c'est une vie horrible. Tu vas envie de te frôler non-stop. Tu vois un truc, il y a une meuf. Alors, laissez béton, hein. Laissez béton, les meufs de ta classe qui sont bonnes, parce que t'as quand même un segment de branlage à la mémoire. Les meufs, je vous révèle un secret, vous n'êtes pas au courant. Mais j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Si les féministes étaient au courant de ça, tu sais. J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Vous avez fait des trucs inavouables. Vous avez été des énormes salopes dans la tête d'énormément de jeunes adolescents hommes, en fait. Je suis désolé de vous raconter, mais en fait, il y a eu des scénarios, mes pauvres. Il y a eu des scénarios où vous étiez les plus gros salopes de France. Et c'était uniquement dans leur tête. Voilà. C'était l'espace d'une branlette. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous avez fait des trucs extrêmement crades. Et du coup, après, t'as du mal à les regarder dans les yeux. Putain, mais quelle horreur. Mais quelle période horrible, en fait. L'adolescence, c'est une période magique, mais c'est une période horrible, quand même. Et bref, et en quatrième, donc ce prof de maths de fils de pute, là, lui, moi et un pote, en fait, on était ces deux souffre-douleurs, et nous prenait nos carnets, il fait, bah, je vais te prendre ton carnet, Ismaël. Et bah, Arnaud, tu vas me donner ton carnet. Tu sais, ça le faisait marrer et tout. Il avait pris mon agenda, je me souviens, il l'avait jeté à la poubelle. Devant toute la classe. Parce que ces fils de pute créent du harcèlement, créent de... Tu sais, après toute la classe se dit, ah tiens, Ismaël s'est fait jeter son carnet à poubelle ou je sais pas quoi. C'est normal, il a pris mon agenda, il a fait, bah, je mets ton agenda à la poubelle. Tu sais, c'était un fils de pute, quoi. Et en fait, on se moquait de lui. En fait, il a pris le seum à ce moment-là. Parce qu'on disait, mais attendez, monsieur L, pourquoi est-ce que vous mettez toujours... Parce qu'il situait il plaçait les élèves. Et on lui a dit, pourquoi vous mettez les deux plus mignonnes de la classe devant votre bureau, là? On lui a dit direct, on a dit, pourquoi vous faites ça? Il a fait, c'est bizarre, quand même. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et à ce moment-là, il avait pris le seum et il s'est acharné sur nous. 10 ans plus tard, on a appris qu'il avait été mis en prison pour pédophilie. C'est pas un truc de ouf, ça. Genre, il prenait en photo des élèves et tout. On avait retrouvé des bases, des photos dans ses disques durs. Enfin, n'importe quoi, quoi. Vous imaginez? Oui, parce que j'ai oublié de vous dire. L'éducation nationale est le premier pôle, je crois. Ou le premier, c'est la famille, je crois. Le deuxième pôle après la famille, je crois, en termes de pédophile. Après les journalistes de Libération. Ah là là, bon bref, donc qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre avant qu'on passe... En fait, au début, je voulais clasher les profs, mais en fait, je vous raconte des petites anecdotes de collège, de lycée. Est-ce que j'en ai d'autres au collège? Je dois en avoir, mais bon... Ah oui, je me souviens au collège. Mais en fait, c'est ça qui casse les couilles, en fait. Moi, c'est pour ça que la France me dégoûte. C'est que tu mets tes enfants dans un établissement et leur niveau, en fait, baisse. Et tellement il y a du tirage vers le bas et tout, je me souviens, on avait des cours de musique. Ouh là là. Le cours de musique, t'es avec un illuminé. Moi, il prenait mon carnet à chaque cours. Parce qu'en fait, vu que j'étais au conservatoire, j'en avais encore plus rien à foutre. Parce que son truc de flûte, en fait, je le jouais parfaitement le jour J. Son déchiffrage de notes, il n'y avait aucun souci, etc. Donc j'en avais encore plus rien à foutre. Donc je faisais encore plus la merde. Et en plus, t'as une flûte entre les mains. Pareil, ça. Écoutez. Donnez-moi le nom d'une seule meuf! Une seule meuf! Qui un jour a pris sa flûte et a soufflé dedans comme une abrutie pendant les cours de musique. Faites travailler votre mémoire, faites travailler tout ça. Une meuf, vous en trouverez pas. Je vous dis, les meufs et les mecs, on est très différents, on n'est pas fait pour être ensemble dans les mêmes écoles et tout. Parce que on fout encore plus la merde pour les faire rire, et elles profitent d'un spectacle gratos comme leur entrée en boîte, en fait. Il n'y a eu aucune meuf qui a eu un jour le courage, la petite folie, de souffler comme une gogole, alors que nous, en fait, c'était naturel. Tu me donnes une flûte. Mais les profs de musique, ils avaient. Tu sais, parce qu'en plus, ils donnaient des cours dans des conservatoires, des écoles de musique à côté et tout. Hein. Mais ils avaient. Mais une cap. Je crois que leur âme et tout, il y a une. Ils ont une capacité à rester zen qui est juste phénoménale. À toute la classe qui arrive, sortez les affaires. Il y a un mec qui Putain, non, mais je vais pas dire en fait. Je vais pas... En fait, il y a un mec qui se branlait en cours. Putain, mais. Putain. Mais il y a un mec qui se branlait en cours en fait. Je crois que vous imaginez pas. En cours de musique, ça le faisait marrer de sortir sa teub, mais c'est horrible en fait. Mais vous imaginez ou pas le niveau de. Et moi, si tu veux, j'ai un an de plus, voire un an de moins, pardon, voire un an et demi, et je suis là, et je fais, mais c'est quoi ces attardés et tout, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le monde était comme ça, et pourquoi au conservatoire, il y avait que des gens normaux et disciplinés, tu sais. Et quand je foutais les pieds dans mon collège et dans mon lycée, c'était le bordel. Donc ouais, et bref, et en fait, en arrivant au cours, tout le monde sortait le plus vite possible sa flûte, et on se frappait avec, et on soufflait, paf, paf, et en fait, un beau jour, il y a un mec qui s'appelait Mamourou. Je tairai, tout descriptif plus avancé du personnage. Il s'appelait Mamourou. Et il avait bien redoublé 5 fois. Hein. Et en fait, il était transféré de collège en collège en collège. Et en fait, il est arrivé en cours de musique et il y avait un mec qui s'appelait Gilbert. Qui était un gros Gilbert, et tout le monde l'aimait bien, il était gentil, mais c'était le gros, tu vois. Et genre, il avait dit à Mamourou, lui avait fait, fais pas le malin, je sais pas quoi. Et Gilbert, il lui avait dit, me parle pas comme ça, je sais pas quoi, tu sais, tout le genre. Et bref, et Mamourou s'était levé en cours de musique, et avait commencé à lui enchaîner des gauches-droites, tu sais, il lui a pété le bras en plus, hein. Je sais pas comment il s'est démerdé, et Gilbert, il est revenu avec un bras dans le plâtre. Et bref, c'est pas seulement ça. C'est que, à ce moment-là, écoutez-moi bien, il y a un mec, un pote à moi, il s'est levé sur la table, donc imaginez que, on est en cours de musique, déjà c'est le bordel de base, il y a un énorme Renoir, oups, qui a 50 plus, qui commence à se lever, à frapper le gros de la classe. Et là, il y a mon pote qui se lève sur la table, et qui commence à faire Super Smash Bros. Et tu sais, il hurlait, il devient fou. Et tout le monde dans la classe commence à se jeter des chaises, mais j'ai pas compris. Et t'entends. Mais putain, mais qu'est-ce que vous croyez que je vais mettre mes enfants là-dedans? Mais putain! Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est le zoo! Mais attendez, on est en cours de musique où c'est déjà un bordel permanent. Il y a un énorme mec qui a redoublé 5 fois, qui se met à frapper le gros, tu sais, d'une manière ultra violente. Et t'as les élèves qui en profitent, parce que c'est le bordel, ils commencent à se battre entre eux, parce qu'en fait, il y a un truc bizarre au collège, c'est que quand il y a une bagarre, le ton monte, tu sais, on n'arrive pas à contrer les émotions et t'as envie de te battre avec d'autres mecs, tu sais. C'est comme les types à l'UFC, sauf qu'ils ont 30 ans, tu sais. Et donc, il y a des mecs qui se lèvent, ils se jettent des chaises, ils souffrent dans la flûte et tout, pendant que le prof est dépassé, mais c'est horrible. C'est horrible, putain. Et un dernier truc aussi au collège, c'est les tentatives de suicide. Ça, vous en avez peut-être eu. Nous, on avait une meuf qui changeait de collège en collège. La pauvre, hein, c'est toujours des histoires hardcore. Et en fait, elle s'appelait Amandine, je crois. Et d'un coup, il lui prenait des folies. T'sais. D'un coup, on était en cours, elle jouait avec ses ciseaux et tout. Et après, elle commençait à se faire... Putain, mais c'est horrible, je suis un enculé. Mais c'est pas bien de me moquer, mais... La meuf devait... Je pense que la meuf, elle avait eu des incestes, des trucs horribles dans sa famille. Mais franchement, je dis pas ça pour rigoler et tout. Je vous raconte juste. Quand t'es enfant, quand t'es ado et tout, tu comprends pas. Genre, t'es là en train de noter la leçon. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Et là, t'entends une meuf qui fait. Elle se mettait des coups de ciseaux sur les. Ouais, parce que vous voyez pas. Elle se mettait des coups de ciseaux sur l'avant-bras, en fait, sur les veines de l'avant-bras. Et là, d'un coup, tout le monde. T'as le prof qui venait et tout pour l'empêcher de faire. Mais putain, mais c'était un. Mais c'est quoi cet endroit en fait? Vous pensez que c'est là où on met des graines, on les arrose et elles poussent? Mais attendez, là c'est des graines de folie là. Je ne vois pas ce qui peut sortir de correct de ce genre d'établissement. Mais la France entière c'est ça. Et là ça a dû être pire et pire. Et c'était un collège de banlieue, mais genre c'était pas la banlieue sale quoi. Putain mais. Bon, à la cour de récré, je raconte, hein, parce que je sais que les mecs, ça vous fait rire, et que les meufs, vous ignorez totalement. Donc, en fait, à la cour de récré, il y avait des boules dés. Le concept de boules dés, tu l'apprends au collège, il y avait des gens qui se prenaient des balayettes par derrière. Ensuite, tout le monde se sautait dessus, coup d'épaule, blablabla. Bla, bla. Mais c'était toujours bon enfant, quoi. Mais il y avait quand même des gens qui se baladaient en sautant, tu sais, avec le pied devant, tu sais. Ils couraient, ils prenaient beaucoup d'élan. Tu sais, toi, t'étais de dos avec ton gros sac à dos, donc des fois, c'était des sixièmes qui prenaient. Hein. Moi, je sais pas comment les colonnes vertébrales, elles ont évolué, mais elles ont pas évolué pour résister à des chocs comme ça. Et t'as des mecs qui se faisaient un délire où ils couraient, ils sautaient, donc en fait, t'avais un espèce de mec à toute allure, tu sais, ils posaient leur sac, ils donnaient leur sac à leurs potes, pour courir plus vite, pour avoir une meilleure pointe de vitesse, et un meilleur transfert de force, tu vois. Ils couraient, ils avaient repéré un mec loin, tu sais, et ils prenaient de l'élan, et ils sautaient avec le pied en avant, tu sais, et ils mettaient un énorme coup de pied sauté, chassé, tu sais, au sac à dos d'un mec, et le mec, du coup, il prenait une force pas prévue, mais il s'effondrait au sol, mais... Et après, ça... après, le mec, il partait en courant parce qu'il se faisait courser. Putain, c'était que ça, en fait. Et puis, t'avais le CDI où c'était le refuge, tu vois. Donc, t'avais toutes les têtes d'ampoule qui allaient se réfugier au CDI parce qu'ils avaient la paix, parce que il fallait pas faire de bruit là-bas. Le problème, c'est qu'il y avait un trajet qui s'appelait sortir du CDI et pour aller à la salle de cours. Et là, je peux vous dire que c'était le trajet de tous les dangers pour eux. Mais je disais, on avait parlé dans un 10 000 burgers, et je vous avais raconté que des gens, en fait, en troisième, il y avait un groupe de mecs marrants, hein, pas méchants, mais bon. Ils avaient pris... Putain, il faut que je parle des toilettes aussi. Ouf. Bon, je vous raconte d'abord. Ils avaient pris le sac à dos d'un sixième. Donc déjà, je sais pas comment ils l'ont bolossé pour avoir son sac à dos. Et en fait, ils ont vidé tous ces livres et tout, tu sais, en les jetant un peu partout dans le collège, mais on est des gros fils de pute, en fait. Vraiment, quand on est au collège et tout. Et en fait, écoutez bien, parce que c'est là que ça devient hardcore. Ils ont chié dedans. Ils ont chié dans le sac du mec. Ils ont vidé son sac à dos dans tout le collège, ils lui ont rendu, ils avaient chié dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence, en fait. Mais imagine, mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Tu sais, t'inscris ton enfant au collège, et il a 10 ans, tu sais, ou 11 ans, il revient, il a plus d'affaires scolaires, et il y a trois merdes différentes dans son sac, avec de la pisse, sûrement, tu vois. Mais c'est affreux, en fait. C'est affreux. Je vais repasser au lycée, parce que là, c'est bon, en fait. J'allais vous parler de l'état des toilettes, pareil, j'imagine que les toilettes des meufs, c'était propre. Nous, en fait, les mecs, ils s'amusaient à pisser partout, en fait. Genre, c'était un délire. Il fallait que tout le papier toilette, il soit mouillé et mis dans les lavabos et qu'il bouche les chiottes et qu'il y ait de la pisse partout et qu'il y ait de la pisse par terre et que tu marches dans de la pisse, en fait. Il fallait qu'il y ait ça, sinon c'était pas bon. Mais c'est insupportable, en fait. Putain, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et n'en parlons pas au lycée, mais il y a des mecs qui se branlaient dans les chiottes, en fait, au lycée. Bon, attendez, on va passer au lycée parce que là... Donc, le lycée, je disais... Il y a une frustration qui est énorme, surtout, je vous dis, surtout pour moi, parce que moi, je suis le petit, je suis celui qui a sauté une classe, et je suis le mec qui, comme stratégie, en fait, pour être accepté, être cool et tout, je suis le mec qui fait rire, qui fait des blagues, qui est insupportable en cours pour faire rire la galerie, en fait, je suis l'amuseur de galerie, ce qui est le pire truc à faire. Là, je donne un conseil à tous mes auditeurs encore à l'école, si vous êtes au lycée. Oui, être marrant, être le mec, le clown de la classe, oui, ça va vous faire des potes, ça c'est clair et net, vous allez rigoler, vous allez avoir des bêtes de potes et tout. Par contre, vous allez être catégorisé clown de la classe, oubliez tout ce qui est meuf, hein. Oubliez les meufs, parce que les meufs, en fait, elles vont pas s'intéresser au clown de la classe du tout. Bref. Donc oui, en seconde, il y a tout ça, il y a des problèmes de comportement qui commencent à devenir extrêmement majeurs. Et donc, en fait, à la fin de l'année, mes parents décident de me changer de classe, mais en fait, c'est parce que je me fais virer, tout simplement. À la fin de l'année, en gros, ils expliquent que ça va pas le faire les années prochaines et que ça va mal finir. Et là, je passe dans un lycée... Attends, est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter, sinon... Oui, bon, après, j'ai oublié de parler de toutes les séances de sport, parce qu'il y a l'EPS aussi. L'EPS, ça aussi, les meufs n'ont pas la même expérience de l'EPS que les mecs. Les meufs, c'est une expérience rapidement sur le banc, rapidement, ouais, j'ai mes règles, rapidement, blablabla, papotage, rapidement, j'ai un niveau de merde et je ferai aucun effort, mais j'aurai 18. Les mecs, on prenait notre pied. Hein. L'EPS, c'était vraiment ce qui nous faisait kiffer, avoir sport avec les potes, des fois, il y avait de la boxe française, des fois, il y avait des trucs, on s'éclatait, hein. on kiffait de ouf, et tu foutais la merde et tout, et c'était bien, et c'était vraiment notre moment. Bref. Donc oui, donc en première, mes parents, je fais ma première au lycée Notre-Dame de la Compassion, un lycée privé catholique à Pontoise. Et en fait, il y a le choc, là. Là, c'est le choc. Et vous voyez le personnage de Galancir, là, Paul-Édouard ? Ouais, Charles-Édouard, oui, c'est Paul-Édouard, ouais. Ou l'inverse, hein. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens qui avaient cette coupe de cheveux exactement, qui s'habillaient exactement dans ce style-là et qui parlaient avec cette voix très grave. C'est ça m'a fait très bizarre, en fait, de passer d'un lycée de banlieue à un lycée privé catholique. Et bref, et en fait, à ce moment-là, j'ai pris extrêmement cher au niveau des profs. Au niveau des profs, je sais pas ce qu'ils avaient avec moi. J'ai pris extrêmement cher. Et en fait, j'étais aussi dans un lycée où, pour le coup, il n'y avait pas énormément de gens qui étaient prêts à faire à foutre la merde comme moi, je l'ai toujours foutu, tu vois. Quand j'étais au lycée public, j'avais des camarades de foutage de merde et c'était parfait. Là, d'un coup, ils étaient pas du tout dans le même délire. T'sais. Ils étaient très sérieux, ils osaient pas, ils voulaient surtout pas se faire remarquer par le prof, etc. Donc ça a pas été, ça a pas été, comment? Ça a pas été la folie. Hein. Alors j'ai fini par me faire des potes, surtout sur quand j'ai retapé. Je vous ai raconté, j'ai demandé à redoubler, et ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise, de me faire des potes vraiment de mon âge et tout. On se comprenait beaucoup mieux, alors que les autres, ils étaient bizarres en fait, ils étaient chelous. Et ouais, je me souviens que j'ai passé le premier mois entier à parler à quasiment personne. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est violent. Hein. Et en fait, j'avais en tête que sortir du lycée et aller retrouver mes potes de mon ancien lycée pour leur raconter à quel point les mecs étaient coincés du cul, à quel point ils étaient pas marrants, à quel point ceci, cela, tu vois. Et j'ai passé un mois à parler à personne. C'était horrible de solitude. J'étais là dans la classe, alors que je suis un mec qui a envie de rigoler, qui a envie de m'amuser et tout. J'étais là, je m'asseyais dans la classe. Je parlais pas, je m'intéressais même pas au cours. À la cafette, vite fait, enfin c'était. Tu sais, je comptais les heures et tout, j'étais là. C'est horrible. En fait, un mec qui a toujours eu plein de potes et tout, toujours en train de rigoler, toujours dans les bons coups, tout. D'un coup, je suis passé dans une solitude absolue. Après, ça a amélioré, mais c'était des fausses relations en fait. J'avais des fausses relations avec des gens qui me ressemblaient tellement pas. On n'avait pas du tout le même humour, enfin c'était bizarre en fait. Vraiment, c'était chaud. Et oui, et donc je me souviens que en fait quand j'ai redoublé, j'ai re-eu notamment une prof de maths. Et après j'ai eu quasiment 20 de moyenne en maths et tout. Et en fait à partir de là, ça m'a plus jamais quitté. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais bon en maths vraiment et que en fait je méritais pas d'avoir eu une première où j'avais des résultats très 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 moyens. Je crois que j'avais quoi 9, 10 de moyenne, tu vois. Et c'était pas possible. Ça correspondait pas en fait à moi. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait même pour vous, hein, si vous vous sentez concerné par le fait que vous ayez des résultats moyens ou quoi, mais tout est géré par votre classe, par comment vous êtes tiré vers le haut, par l'ambiance, par ceci, cela. Et en fait, parfois, quand vous faites chier, c'est encore pire que de s'amuser, quoi. Quand vous amusez, ça part en couille, mais quand vous faites chier que vous êtes dans la solitude, vous n'avez aucun intérêt. Et il y a des gens qui sont très intelligents et tout, en fait, ils ont tellement peu d'intérêt qu'ils ont pas des. Ils s'en foutent, ils ont des résultats superficiels. Et le problème, c'est que ça gère tellement le reste de ton avenir que tu te fais baiser. Et moi encore pire, parce que vu que je voulais faire prépa derrière, il fallait que j'aie un dossier. Et le dossier demande des notes déjà, mais il demande en plus des appréciations. Et en fait, pour vous dire la violence, parce que les profs, en gros, j'étais un peu le banlieusard. Hein. J'étais clairement le banlieusard de l'école. Je dis pas que Pontoise, c'est pas une banlieue, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, les profs avaient tellement le seum que ma prof de maths, j'avais 18 de moyenne, et genre, j'étais présent au conseil de classe. Et elle a écrit et elle a dit que j'avais aucun mérite. Aucun putain de mérite, aucun mérite. Ça va marquer toute ma vie en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je me tapais des avertissements de comportement, ce que vous voulez. Et même les fois où je me comportais bien et que j'avais des bonnes notes, il y avait des ouais, bon, aucun mérite, OK. Mon prof de physique, alors que j'avais des très bons résultats, tu sais, je le saoulais en fait. Genre, il en avait marre de moi. Je faisais rien. T'sais. Pour le coup, y a rien à voir. T'sais, le comportement en public et tout au lycée Notre-Dame de la Compassion là, au lycée privé Cato, c'était j'étais carré. Hein, j'étais exemplaire. Peut-être pas exemplaire, mais en tout cas, j'étais carré. Il y avait des bavardages, mais ça s'arrêtait là. Il y avait pas des bruits d'animaux. Il y avait pas des cris et tout, parce que les gens n'étaient pas réceptifs à ça. Donc, je serais passé pour un gogol. Bon, il y avait des bavardages, mais c'est pas méchant quoi. Et ouais, les profs, je sais pas, ils m'ont mis la misère tout le temps. Et le prof de physique-chimie, alors que j'avais des bons résultats et tout, je le saoulais, tu sais, je posais des questions et tout, ça le faisait chier, en fait. En fait, il était persuadé, et c'est ça qu'il se disait, en fait, dans les conseils de classe et tout, les profs pensaient que je posais des questions en classe pour faire perdre du temps au cours. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau, c'est comme le sourire narquois, le niveau de malveillance qu'on me prêtait, alors qu'en fait, j'étais juste intéressé, et je lui disais, mais comment vous savez que ce modèle-là, il est vrai et tout? Genre, je me souviens, on parlait de la gravité, je sais pas quoi. Et j'ai dit, mais attendez, comment ça? C'est quoi ce modèle? Pourquoi moi je peux pas inventer un modèle, tu vois? Genre, je posais des questions vraiment par curiosité, par ignorance. Et le prof croyait que je faisais exprès pour ralentir la classe et tout. Enfin bref. Et donc, on y retourne à des profs qui ont eu, qui ont eu vis-à-vis de moi des traitements d'enculé parce qu'ils sentaient que j'étais différent et ils voulaient pas m'accorder en fait ce bénéfice du. Tu vois, tout le monde voyait bien que j'avais un potentiel, mais il voulait pas m'accorder ça. Il voulait me sanctionner justement d'être, de sortir des clous, de sortir du comportement attendu, d'être parfois insolent, parfois désobéissant, d'avoir des réflexions, des questionnements sur la hiérarchie, sur ceci, cela. Il m'en voulait énormément de ça. Et ça, ça a été un énorme problème parce qu'en fait, l'école, et ça a été pareil en fait en école d'ingé, mon seul répit. Là, de toute façon, on va s'arrêter bientôt parce que je vais pas entrer dans la prépa et tout, parce que là, on a pour des heures. Mon seul répit, ça a été la prépa, parce que le mindset. Ouais, c'est une question de mindset, hein. L'état d'esprit était vraiment très différent. Très très différent en prépa, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de responsabilité. Si tu foires, tu foires, c'est toi. Voilà, si tu veux faire le con, tu fais le con, tu vas te foirer, et on s'en fout, on va pas te reprendre, hein, on n'est pas tes parents. Et moi, c'est l'environnement dont j'ai toujours eu besoin. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu une scolarité très difficile vis-à-vis de ça, que la prépa, ça s'est merveilleusement bien passé, et que l'école d'ingé, c'est revenu un peu ce genre de choses, et que même globalement, dans ma vie, mon rapport à l'autorité, etc., et je répète, j'ai fait quand même un encadrement militaire à Saint-Cyr, je n'ai pas de problème avec l'autorité et la hiérarchie. Mais par contre, j'ai un problème avec le zèle, avec les gens qui ne sont pas compétents, etc. Et oui, et je pense que ça, je le vis comme un traumatisme parce que l'école m'a puni d'être original, m'a puni d'avoir des facilités et de m'ennuyer. Et vous vous souvenez quand je vous parlais en CE1 qu'il y avait des trucs spéciaux pour éviter les ennuis, m'a puni de ces choses-là, en fait, d'avoir une personnalité, d'être quelqu'un qu'on va pas pouvoir maraver, qu'on va pas pouvoir dominer, qui va pas se ranger comme un zombie et pas faire de bruit et pas parler comme on veut, d'être quelqu'un qui va pas respecter le règlement sans jamais le remettre en question, parce que moi, quand il y avait des trucs cons qui était dans le règlement, je le disais en fait. Et je sais que c'est chiant d'avoir un mec qui se croit toujours plus intelligent, plus malin, alors que le gars est un putain de gosse. Mais, en tout cas, j'ai été énormément puni là-dessus, et il y a eu beaucoup de mauvaise foi. À tel point que tu vois, par exemple, je vous l'ai déjà raconté, pour passer mon bac, ils m'ont mis avis satisfaisant, un truc du genre. C'est-à-dire que t'as avis, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, je crois que c'est ça. T'as avis non. Ouais, favorable, voilà. T'as avis non favorable, bon ça c'est vraiment, faut le chercher pour avoir avis favorable au bac. Avis favorable, c'est-à-dire que t'as un random, et avis très favorable. N'importe qui va en prépa, il a forcément avis très favorable, parce que pour aller en prépa, il faut qu'ils soient un minimum dégourdis, quoi. Et moi, en fait, ils ont fait exprès de me mettre avis favorable parce que c'était éliminatoire, vous voyez? C'est comme si on vous demandait, je sais pas, d'avoir. Enfin, vous voyez, c'était éliminatoire en fait dans les dossiers. Et ces fils de pute, et je me souviens, mes parents et tout, ils étaient vénères. Et ils ont dit, ah non, 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 on peut pas lui mettre avis très favorable. Tu sais, ça n'avait aucun sens. C'est le bac que je l'avais de A à Z, j'aurais pu le passer en première, t'es limite. Et ouais, bon, j'abuse. Ils ont fait exprès pour casser mon dossier. Et je me souviens que je suis pas allé à la remise de leur diplôme de merde, là. Mais m'a été rapporté que, genre, une des profs, qui était prof d'espagnol, la prof d'espagnol, là, je repasse en mode, c'est plus marrant, c'est plus les anecdotes de classe. Là, je repasse en mode seum. Écoutez les gars, j'avais 5 de moyenne en espagnol. Alors oui, il y a eu le fameux hola, no tu hola, no tu que pasa, tu que pasa, pour ceux qui se souviennent, mais j'avais 5 de moyenne en espagnol. J'ai passé le bac blanc, j'ai été la dernière copie rendue dans l'ordre croissant. J'étais premier en fait. J'ai eu 18 au bac blanc d'espagnol. Et là, il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise parce que j'ai demandé à la prof, vraiment, je lui ai dit, je comprends pas. Là, je lui ai dit, vraiment, j'ai dit, je comprends pas. Pour moi, le bac était très simple, là, le bac blanc. Je l'ai fait. Bon, je m'attendais à avoir beaucoup de fautes, parce que vu que c'était simple, j'imagine que j'ai mal écrit ça de tel mot d'un, ou j'ai mal compris. J'ai 18. Comment ça se fait que j'ai 5 de moyenne et que cette pute, parce que les meufs avaient des surnotes, hein. Oui, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié d'aborder ça. J'ai oublié d'aborder le sexisme. Putain, j'ai oublié. Oh putain, j'ai oublié. Je peux pas finir ce podcast sans parler de ça. Donc oui, j'ai demandé à la prof comment ça se fait que j'avais 5 de moyenne alors que et au bac d'espagnol j'ai eu 14. Bon, c'est moins bien, mais comment je passe de 5 à 14, c'est quoi? Bonne question, bonne question. Et ça a enculé mon dossier. Ça a enculé mon dossier. Et du coup, quand elle a appris que j'avais été finalement en prépa à Saint-Cyr, que j'ai été accepté par miracle, apparemment la meuf a fait, mais non, mais attends, c'est impossible, mais il a pas le niveau. Grosse pute, je suis arrivé premier à Saint-Cyr. Enfin, deuxième. Bref. Ouais, là, il faut que, voilà, on va finir là-dessus, parce qu'il faut que je déverrouille vos chakras. Le sexisme à l'école est insupportable. On sait statistiquement que les femmes performent mieux à l'école que les hommes. Donc ensuite, comment ça se fait que les hommes sont plus chefs d'entreprise, sont plus en plus de réussite professionnelle, etc., etc. Ça, il y a des explications, mais c'est pas le sujet du podcast. Pourquoi est-ce qu'elles performent mieux à l'école? Parce que l'école est correspond beaucoup plus au tempérament des femmes, des jeunes filles. Et la preuve, c'est que les jeunes filles font pas. Il n'y a rien de plus simple que de prendre une flûte et de souffler dedans, et pourtant, il n'y a aucune meuf qui n'a jamais fait ça. Ou alors, elles l'ont fait un peu timidement en cachette chez elles, t'sais. Donc, il y a clairement des énormes différences de comportement à cet âge-là et à l'école. Et l'école va rétribuer positivement ces gens-là. L'école est aussi a une manière aussi de noter qui correspond à du recrachage pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières, sauf en général les matières entre guillemets qui commence à être scientifique, même si bon, les maths au collège et tout, c'est beaucoup du recrachage aussi. On va pas très loin dans l'improvisation. En prépa, par exemple, c'est de l'improvisation pure et dure. Vous pouvez pas recracher les définitions, les théorèmes. Non, va falloir utiliser ça comme base de données, commencer à construire, à faire l'architecte, à construire votre démonstration. Donc, l'école, c'est beaucoup, beaucoup de recrachage. C'est beaucoup, beaucoup basé sur des choses. Des capacités, des compétences qui sont très féminines. Pourquoi? Parce que c'est une question. Alors là, on est dans les choses qui vont jamais être prouvées parce que c'est s'agit de théories, mais c'est des théories qui font sens et qui sont cohérentes. Les meufs sont tout à fait, sont bien plus à même d'adopter tout un système de pensée et de s'y soumettre et de s'y prêter et d'y être performante. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes sont une monnaie d'échange dans le monde des conquêtes et en fait, quand un peuple se fait conquérir par un autre, tous les hommes se font défoncer et les femmes doivent directement s'adapter à leur nouveau propriétaire, en quelque sorte. Je sais que c'est violent à dire, mais c'est clairement ça. Donc il y a des facultés féminines qui sont dans la restitution, dans l'apprentissage et la restitution facile. Mais c'est pas tout. Je vous l'ai dit, les mecs se tirent vers le bas tout seuls. Hein. Pour le coup, les meufs, ils sont pour rien. Mais les mecs se tirent vers le bas parce que ça veut faire des. En fait, il y a la puberté, il y a l'envie de bagarre, il y a le sexe absolument partout, il y a l'envie de déconner, il y a l'envie de faire rire, etc., etc. Donc ça explique aussi pourquoi les mecs. C'est pas pourquoi les femmes réussissent mieux, mais pourquoi les mecs réussissent moins bien. Et ensuite, et ça, c'est fondamental. Et ça, il faut être de mauvaise foi énorme pour ne pas. Je dis pas que ça concerne toutes les meufs. Il y a peut-être des meufs qui n'ont pas eu ce traitement de faveur. Mais par contre, il y a une part extrêmement colossale, substantielle, de notes durant la scolarité qui sont des notes à la gueule. Il n'y a pas de barème. Le barème, il dépend de qui. Il y a des points qui sont attribués plus facilement à certains qu'à d'autres. À l'oral notamment, mais surtout dans les trucs, dans les matières de fils de pute comme le français, l'espagnol, l'anglais, tous les trucs un peu à la louche, tu vois. Et les meufs, parce que il y a un côté pitié, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, en fait, on a de la compassion pour elle. On se dit, voilà, oh ça a dû lui demander beaucoup d'efforts quand même de faire ça, et elle a été très courageuse, et bravo, et parce qu'il y a un côté timide, etc. Et donc, elles sont beaucoup mieux récompensées là-dessus. Bon, le PS, je n'en parle pas. Et, je vais finir là-dessus, hein, juste. Ça crée de la frustration quand on est un mec et tout, mais à la fin de la journée, parce que ça crée de la frustration parce que derrière il y a des conséquences sur les dossiers, les meufs ont des meilleurs dossiers du coup, donc elles sont acceptées dans des meilleures écoles, etc., etc. Et ça crée de la frustration chez beaucoup de gens, bref, parce qu'eux aussi se font allumer en fait. Moi j'ai vu des meufs complètement stupides prendre une dissertation, moi j'avais eu 4, ce qui est hors sujet, parce que je sais pas, j'ai eu 12 au bac de français. Et elles, alors qu'elles étaient complètement connes, elles prenaient des 16. 16! 16 pour avoir 16 en dissertation, là, en français? Attention, hein! Et je prenais la copie, j'ai fait, donne-moi ta copie, toi, je te connais, t'en alignes pas une. Je lis le truc, la meuf, je vous promets, c'était un discours d'invention, elle racontait son rêve. C'était même pas le sujet. Elle a parlé de son rêve, elle a dit, alors, la nuit dernière, j'ai rêvé, nan, nan, nan. 16 sur 20. Mais c'est lamentable. Alors, bon, moi j'avoue que j'ai déjà relu une de mes copies, parce que j'ai relu en terminale une de mes copies de philo. Et en fait, c'était avec ma grande sœur et tout, j'avais eu 5 et j'avais pas compris pourquoi et tout. Et on a relu et il manquait des mots. Tellement je m'en battais les couilles, tellement que j'allais vite en écrivant. On relisait la phrase et il manquait des mots. Tu sais, je m'étais pas relu une seule fois. T'avais une phrase, il manquait la moitié des mots et tout. Mais je faisais, mais attends, mais je suis un gogol ou quoi. Donc je dis pas que j'ai volé mes notes de merde. Mais en tout cas, elle, évidemment, et vous le savez, évidemment, les meufs, elles subissaient des grands traitements de favoritisme et des grands traitements de faveur, pardon. Et elles s'en sont jamais plaintes. Elles s'en sont jamais plaintes. Et le féminisme ne pointera jamais cette différence de traitement qui est naturelle, hein, parce que je vous le dis, c'est beaucoup plus sympa d'avoir des petites filles gentilles que d'avoir des mecs en puberté qui crient, qui font trucs et qui sont insupportables. T'as envie de les saquer, t'as envie de leur mettre des notes de merde, alors que la meuf qui est gentille, t'as envie de l'encourager. Pareil, les encouragements, les compliments, les meufs, c'était pas le même barème que les mecs, hein. Les meufs, si on trouve que vraiment elle est mignonne, oh, 13, ça mérite bien les félicitations, vous voyez. Ah là 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 là. Donc bon, c'est tout un sujet, je vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est aussi pour ça que après dans les études supérieures, il y a un hop là, il y a un petit retournement de situation et il est tout à fait justifié et appréciable. Bref. Je voulais parler des profs, mais finalement j'ai parlé un peu de tout et de rien dans ce podcast. Bon, j'espère que ça vous plaît. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un hors-série. Je vous dis, en fait, il y avait tellement de choses du côté perso cette semaine que j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous raconter. Du côté news, j'avais pas envie particulièrement. Donc cette semaine, on va rester sur un hors-série. Les probiotiques sortent la semaine prochaine. Je voulais prendre beaucoup plus de temps pour bien préparer mon sujet, bien vous expliquer. Et je vous remercie, voilà. Je sais qu'il y a un plein qui vont me dire, vous aimez trop couper le podcast avant que je finisse, alors que c'est le moment le plus important. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour votre soutien, notamment après l'article de l'IB, je sais pas pourquoi ça vous a chauffé encore plus, pour votre soutien à travers toutes mes entreprises, à travers mon activité, et à travers, même, je vois de plus en plus beaucoup de gens s'investir dans les commentaires, je sais pas, sur Twitter, sur trucs, et dès qu'un mec dit de la merde sur moi, hop, il se fait gentiment corriger, hein. Oui, est-ce que tu peux donner un argument, s'il te plaît? Vous voyez qu'il suffit de dire ça et ça ne tient plus. Et ouais, je suis content quand vous balancez les liens de la vidéo, quand les gens disent climato nana. C'est parfait. Sachez que ça me touche énormément. J'en ai besoin, hein, pour être honnête. C'est comme la gouache. L'épisode de la peinture, là, en art plastique. J'ai besoin qu'il y ait personne qui poucave et qu'on serre les coudes. Et moi, ça me fait plaisir et je serai toujours au rendez-vous toutes les semaines. Sauf cas majeur, hein. Et je continue et on forme une excellente équipe et on va tout défoncer. Et sachez qu'on a une véritable influence positive sur tous ceux qui veulent bien s'en donner la peine en France, mecs comme meufs. Donc merci vraiment pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve pour un épisode classique, je pense, la semaine prochaine pour Divulgue pas saison 3. C'était le Raptor, ciao.